Prochain rendez-vous musical, justement, c'est un nouveau rendez-vous que nous accueillons sur la grille de Radio Courtoisie. Ce soir, à 21h30, vous pourrez suivre en direct le Libre Journal de la Nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau. Donc à 21h, une demi-heure de musique classique. À 21h30, cette émission, le Libre Journal de la Nuit, de Paul-Marie Couteau. Et puis à 23h30, de la musique pour aller jusqu'à minuit avant les rediffusions habituelles de la nuit. Tout de suite et en direct, le Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h. Toute l'équipe de Radio Courtoisie vous présente ses meilleurs vœux pour 2007.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 janvier 2007 de 18 à 21h. En différé jeudi 11 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la résistance, bonsoir.
Contre résistant.
Oh là là, là non, soit, hein, je ne sais pas à quoi on résiste, mais...
On résiste mal.
Voilà, mais mal. Qu'est-ce que j'étais pour dire? Ah ben, on est là pour faire une émission. Alors donc, les personnes autour du micro, dans l'ordre...
L'entrée en scène.
Victoria, comment allez-vous, Victoria?
Très bien, cher Serge.
Avez-vous passé une bonne année jusqu'à présent?
Bouf. Ouais, bon, ça peut aller.
Marquis,
bouf, oui.
Ouais, c'est bien.
Quelle pas pêche. Bon, c'est pour ça.
Jean-Pierre Rondeau.
Moi, je passe une bonne année. Ouais,
il est d'un naturel. Il est d'un naturel extrêmement positif et optimiste, Jean-Pierre Rondeau. Et alors, il a du mérite parce qu'il est dans les affaires, il est dans la finance.
Les bourses flambent.
Non, il y a des médicaments pour ça.
Pardon. Je suis un pessimiste, mais qui sait que dans ce monde de pessimistes, on peut quand même trouver ses oasis.
Et l'homme de droite est un pessimiste.
Je suis pour avoir été maire adjoint en Seine-Saint-Denis, je suis très pessimiste, mais.
Oui, c'est vrai que ça doit être.
C'est vrai. Goffman, vous êtes quoi, hein?
Je passe un très bon début d'année, d'autant que j'ai le privilège de saluer les auditeurs et les auditrices de Radio Courtoisie dans le monde entier.
Surtout les auditrices, je crois.
Oui,
plutôt porté sur l'auditrice, vous.
Absolument, je suis content.
Surtout s'il peut la battre.
Étant contre tout compte. Oui. Dans le monde entier et au-delà. Et je suggère aux autres, qui savent qu'ils ont un parent, un ami, qui n'ont pas encore écouté Serge de Bekesh, mais qui sont équipés d'Internet, de leur passer un petit coup de fil. Qu'on agrandisse un petit peu la famille d'un seul coup de fil. Si 1000 ou 2000 personnes m'entendent, on peut nous écouter dans le monde entier sur Radio Courtoisie en un seul mot.com.
D'un seul coup de filet, comme dirait Sarkozy.
Voilà. Il est efficace. Il ne perd pas une minute, il ne dit que des choses intéressantes.
Je vais continuer, Serge. J'ai une lettre fleurie d'une dame adressée à notre divin marquis, mais cette dame qui nous écoute dans la Charente, je crois que la Charente-Maritime, pour être précis, que peut-être vous connaissez.
La Charente-Maritime ?
Oui.
Pas personnellement.
La dame.
Cette dame nous envoie une très belle lettre au marquis pour lui demander l'enregistrement de notre émission du 3 janvier. Alors, à elle et à toutes celles et tous ceux qui ne le sauraient pas encore, si on veut un enregistrement, à celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, si on veut un enregistrement de notre émission du 3 janvier, de celle d'aujourd'hui ou de toute autre date, il faut envoyer un chèque. Notez, Marie-Claude, s'il vous plaît, un chèque de 9 euros si on est adhérent à Radio Courtoisie, de 11 si on ne l'est pas.
C'est mon show qui envoie des lettres.
Voilà. Ah ben, je voulais pas la balancer, mais
si vous voulez au marquis.
Voilà. Alors, Madame Monchot, prenez votre chéquier, 11 euros.
La pauvre.
Et notez bien votre adresse.
Non, fait Franck, c'est pas 11 euros, ça c'est des prix. C'est beaucoup plus cher que ça, les émissions de Serge de Bekesh.
Ah ben, c'est Jacqueline qui m'a dit 11 euros tout à l'heure.
N'importe
quoi. Ah oui, mais Jacqueline.
C'est combien?
Elle fait un chèque en blanc.
Je transcris.
C'est 20. C'est 20
euros pour les 3 heures.
C'est 20 euros pour les 3 heures. Heureusement que le technicien est là pour corriger mes erreurs. Alors c'est 20 euros à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, et ne comptez pas sur le secrétaire pour deviner ce que vous voulez. Hein,
oui, c'est un audit pas, par exemple, quand ça arrive. Il y a eu une émission, on a parlé de politique la semaine dernière, il y a quelques temps, j'aimerais bien avoir la cassette. Il y a eu comme ça, j'avais reçu à minute une lettre à l'époque. Aux minutes était sous ma haute direction, j'avais reçu une lettre de. J'allais dire à l'époque aux minutes existait, puis je me suis dit c'est pas la peine d'être gratuitement méchant. En plus, je l'ai sous le nez.
Donc il existe.
Et si Chirac y allait, il demande. Et donc il m'avait envoyé une lettre, et quelqu'un m'avait écrit en me disant vous avez parlé il y a quelque temps dans le journal d'un livre qui avait l'air très intéressant, c'était l'histoire d'un type qui couchait avec sa bonne. Donc voilà, j'ai jamais pu retrouver naturellement le titre du bouquin, parce que c'est pratiquement une bibliothèque entière. Et alors l'invité vedette de ce soir, c'est Martin Pelletier. Salut Martin.
Bonsoir Serge, ça va?
Comment allez-vous?
Moi ça va vachement bien.
On va essayer
bien.
De tenir
On se voit, c'est très bien.
Parce qu'il paraît que les auditeurs préfèrent qu'on se vous soit à l'antenne.
Vous soyons-nous.
Faire radio chic.
Mais tout le monde y se tutoie?
Non, pas moi, je ne tutoie personne. Même pas mon grand-père. Voilà, c'était pour dire Martin Pelletier qui vient de faire un bouquin dont je ne dirais pas qu'il est intéressant, parce que pour ne rien vous cacher, je ne l'ai pas lu, mais j'en connais le sujet, et le sujet, lui, est intéressant.
Martin Pelletier qui nous vient, lui, de Bordeaux. Carrément.
Non, du Médoc. De Soulac. Et alors tout à l'heure, il essayait de nous apitoyer en disant, vous savez, quand on habite Soulac, c'est pas facile de venir à Paris. Bah, t'as qu'à y rester à Soulac, parce que moi, si j'habite à Soulac, c'est pas souvent qu'on me verra à Paris.
Est-ce que pour autant, son bouquin est Médoc?
Non, il n'est pas
médoc. Mais alors, ça commence très fort.
Alors, c'est un livre, Les Mayas au risque de l'histoire, qui est le point de départ de ce livre, c'est la polémique qui éclate, enfin, qui est en train de se répandre en France, parce qu'elle a déjà éclaté aux États-Unis, sur le dernier film de notre ami
Mel Gibson.
Notre ami, c'est-à-dire de l'homme que nous admirons, Mel Gibson.
Qui est sorti aujourd'hui même dans 450 salles en France.
C'est le quid à pâte. Il y a Casanova, comme ça, et Goffman. Quelle est la différence entre Casanova et Goffman?
Comme je vais aller voir le
20 cm.
Regardez déjà, il faut pas non plus.
Je suis extrêmement malin, j'ai acheté Le Parisien Libéré. Mais vous-même, Serge, c'est pas la peine de faire l'idiot, puisque vous avez mieux, vous avez le hors-série du Figaro.
Alors, je voulais en dire un mot, mais on va en reparler tout à l'heure. Le Figaro a sorti, pour Le Figaro, j'ai pas l'habitude d'en dire du bien, Mais là, ils ont fait un hors-série.
C'est Gégère, les numéros spéciaux.
Alors. Ben, c'est pour ça. Ah, je me disais, il est vachement bien fait.
Les numéros spéciaux, c'est un copain à nous, évidemment.
Ah bon, ben, c'est pour ça.
Là, on sabote, là. Hein.
Je comprends tout, maintenant. Formidable numéro. Alors là, vraiment, avec des... Hein, vous l'avez lu, Martin?
Oui, Serge, j'en ai écrit quelques papiers. Ah, ben, mais je l'ai lu aussi.
Avec Lina de Chicole, j'ai vu, elle a fait série de papiers. C'est très bien foutu.
Oui, oui.
Les 12 journées qui ont jalonné l'histoire de l'Empire Maya.
La formule du hors-série est très bien et l'application particulière est bonne.
Alors moi, quand j'ai entendu dire qu'ils font un numéro spécial du Figaro hors-série sur Maya, c'est quand même un vieux dessin animé. Vous vous rappelez, Maya?
L'abeille.
Ben non, c'est pas ça. C'est encore plus intéressant que ça. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est tout. Non, j'avais quelque chose, j'avais une très bonne idée, puis ça vient de me sortir de la tête. C'est pas grave. Voilà, c'est ça quand même. J'ai retrouvé le papier. Il y a un prof qui vient de se faire arrêter sur plainte, mis en garde à vue, hein, ça rigole pas, un prof. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce prof?
Ah oui, bonne question.
Je vais vous le dire. Il a fait ce qu'on appelle un blog. Alors un blog, pour les gens comme moi qui connaissent rien à pas grand chose, c'est une espèce de site personnel internet. Alors sur ce blog, il a fait les choses suivantes qui lui valent une plainte en bonne et due forme. Il a mis en ligne une il est poursuivi pour avoir mis en ligne une photo du président de la République coiffé d'un fez. Il aurait dû lui en mettre deux, comme ça il aurait été coiffé d'une paire de fez, bien entendu.
Oh là là.
Quoi, c'est pas bien?
Non, c'est très bien.
Je préfère que ce soit vous qui l'ayez fait.
Alors, il a publié, d'autre part, pour avoir publié des rapports rédigés par les enseignants du lycée professionnel dans lequel il travaille, les rapports étant anonymisés. C'est joli, anonymisé.
Oui. Ben, c'est comme la bravitude, tout ça. C'est...
De façon à ce que... Bon, on va en parler de la bravitude, d'ailleurs. De façon à ce que... Ça, c'est du langage, ouais. Les seuls prénoms des élèves soient indiqués. Alors donc, avoir nommé les prénoms, ouais. Je ne sais pas qui rédige les plaintes, mais je ferais bien de faire... Je sais pas. Il y a des cours de français à l'école de la magistrature de Bordeaux?
Non, j'ai bien fréquenté certains magistrats.
Ouais. Avoir nommé les prénoms dans ces rapports qui sont tous d'origine musulmane. Alors, les rapports ou les prénoms, c'est pas trop... Enfin, voilà. Laissant à penser que seuls les élèves issus de ce groupe étaient responsables de ce type d'incident.
Je comprends rien.
On ne sait pas de quel incident il s'agit, mais les mecs qui s'appellent Mohamed, Ali, Mouloud...
Benoît.
Benoît. Il doit y avoir Benoît, certainement. Alors, avoir écrit à propos de l'éducation nationale. C'est donc au sein même de l'éducation nationale que l'idéologie anti-occidentale, pro-arabe et donc anti-judaïque s'exprime de façon la plus ouverte et la plus violente. Ça, c'est intéressant, c'est une bonne leçon. Il suffit pas de dire du bien des juifs pour pouvoir être raciste anti-arabe. Hein. Il faut quand même maintenant être au courant. Ça a changé. Il y a quelques temps, vous pouviez. Maintenant, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on est pour les uns qu'on est forcément pas contre les autres. Voilà. Et enfin, il a mis sur son blog, alors ça c'est le summum de l'hypocrisie, quoi, hein, une photo d'Al-Zarqawi, une photo du cadavre d'Al-Zarqawi. Alors, que Al-Zarqawi...
Vous savez
qui c'est, Al-Zarqawi?
Oui, non.
Martin, mais oui, mais on a, là, elles sont belles, les photos. Est-ce qu'elles sont vraies?
C'était le patron d'Al-Qaïda en Irak,
c'est ça. Il a été traîné partout.
Oui, mais comme Al-Qaïda n'existe pas,
oui,
je pose la question de savoir si Al-Zarqawi existe. Enfin, en tout cas, s'il est mort, il existe moins qu'avant. Alors, on l'a poursuivi pour avoir publié cette photo. Et une photo de Nick Berg, qui avait été décapité par le même Al-Zarqawi. Alors Nick Berg, contrairement à ce qu'un vain peuple pourrait penser, il n'est pas lui membre d'Al-Qaïda, il était autre chose.
C'est pas Nick Tamer, c'est Nick Berg.
Il est grossier.
Moi, je ne vais pas vous garder. Si vous...
Et c'est notre chroniqueur mondain. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Et alors, ces photos qui sont parues absolument partout, vous tapez sur Google si vous avez un ordinateur, mais autrement, si vous tapez sur Google sans ordinateur, ça donne rien.
Vous pouvez taper sur tout ce que vous voulez.
Et donc... vous mettez images, et Zarqawi, ah et bon. Berg, il y a des photos partout. Et bien lui, il a mis ça, et alors, il est poursuivi pour avoir mis ce genre de photos en ligne, des gens décapités, ou morts, ou décapité mort, ou bon, enfin, sans avertissement préalable et sans empêcher les mineurs d'y accéder. Alors, je ne sais pas si vous avez je parle pour les auditeurs qui ont Internet. Internet, vous appuyez sur n'importe quoi, vous avez des photos, des cochonneries, mais qui dégueulent littéralement sur le bureau.
Moi, je vais peut-être m'y mettre, alors.
Oui, vous serez vite fatigué. Mais là, une photo de Al-Zarqawi et de Nick Berg, c'est grave de permettre aux mineurs d'y accéder.
C'est grave, c'est-à-dire si on commence à virer les profs pour un oui, pour un non, le plan qu'on vient de mettre en place au collège de Meaux, où vous vous souvenez, pour Noël, deux gosses de 11 ans, on avait tué un de 12.
Ouais.
On avait mis un plan stratégique là-bas, tel qu'il y aurait un adulte tous les 7 mètres, je les cite. Tous les 7 mètres sur le...
Les 7 mètres, les 7 professeurs, les 7 mètres, les 7 mètres...
Il y aurait un mètre tous les 7 mètres.
D'accord. Un mètre pour 7 nains.
Voilà, pour éviter qu'il y ait trop de meurtres, de viols, de massacres à la tronçonneuse et de trafic de drogue parmi les gosses de 11 ans. Voilà. Alors, si on vire les profs, c'est pas possible. Il faut quand même rappeler que le personnel de l'éducation nationale ne sont qu'un 1 300 000.
À tous les 7 mètres, ça fait pas, il y en a pas assez.
Ah non, il n'y en aura pas assez, c'est sûr. Ou alors, il va falloir regrouper les élèves. Parce que c'est pas un paramètre. Et alors, non, c'est pas comme ça qu'il fallait réagir, je sais pas.
Ah, moi, je suis
déçu par ma réaction.
Non, je pensais que vous alliez dire du mal de l'éducation nationale.
Ah non. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis pas de mal de l'éducation. Non, mais attendez, c'est pas fini, mon histoire. Pourquoi je ne dis pas de mal de l'éducation nationale? Parce que, où est-ce que j'ai vu ça?
Elle est sévère, mais juste.
Il est poursuivi, cet homme-là,
quand même,
pour avoir remis en cause la qualité de l'enseignement de l'éducation nationale. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Il est poursuivi au titre de l'institution qui est l'éducation nationale pour avoir remis en cause la qualité de son enseignement.
Et le gars qu'il appelle la fabrique des crétins à la une d'un livre, il n'est pas poursuivi, lui, il est toujours prof.
Voilà. Ah non, mais on rigole de ça, mais attendez, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer en France, parce que on ne peut plus rien dire, rien dire. Quand j'ai fait ma blague, bon, qui n'était pas d'un très bon goût, il faut bien reconnaître, mais enfin, tout le monde a compris que c'était une blague. Sauf le salopard qui m'a dénoncé au CSA en truquant, en faisant un faux montage de mes propos pour les remettre dans un ordre qui devenait pécamineux.
Ça lui a pas porté bonheur.
Ça lui a pas porté bonheur, non, ça c'est sûr. Il s'est cassé les dents sur cette affaire.
S'il nous écoute, on lui fait un bras d'honneur. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Ça doit. Eh bien, c'était une blague. Tout le monde comprend bien que quand je dis cette chose que je ne vais pas répéter, parce que pour vous dire
je ne connais pas, moi, répéter. Hein?
Mais je ne me rappelle plus.
Non, c'était à propos de ce que Sarkozy avait dit qu'il allait passer les banlieues au Karcher. Oui. Et moi, j'avais dit qu'il y avait d'autres solutions, mais en rigolant, bien sûr. C'était une mauvaise plaisanterie. Ouais. Enfin, c'était du...
Hein? Voilà. Du peluche, quoi, à la limite.
Bon, à peu près, oui. Eh bien, je suis poursuivi pour ça. Bon... On ne peut plus rien dire. Tout à l'heure, j'écoutais l'émission de Sainte-Marie. Il a tenu des propos avec lesquels je suis absolument d'accord. Mais ce qui est formidable, parce que je rappelle quand même qu'il est gaulliste, Sainte-Marie. Donc on arrive à s'entendre vraiment. C'est difficile, mais là, j'étais d'accord avec ce qu'il a dit. Mais je pense que ça va grincer dans les chaumières. Chaumières, hein.
C'est vraiment inquiétant. Dans le même ordre d'idées, on raconte dans le Libre Journal qui est sorti des presses aujourd'hui, donc c'est le numéro 696, si je ne me trompe.
396.
Qu'est-ce que je raconte? 396. On raconte que le directeur régional des douanes, c'est quand même un assez haut fonctionnaire, des douanes à Marseille, donc de la région PACA, a été suspendu. Bon, il n'est pas encore viré, lui, mais il a été suspendu parce qu'il s'est permis quelques variations humoristiques que je ne vais même pas répéter, tellement c'est banal, et enfin le flot de plaisanteries habituelles sur les préservatifs, suite à une saisie de 200 000 capotes contrefaites. Il a sorti, il y a eu une conférence de presse, et il a sorti les blagues de potache habituelles sur les capotes, suspendues. C'est ce qui était rapproché de l'affaire que vous rapportiez il y a une semaine dans le 95 dans le Val d'Oise, Serge.
C'est normal, c'est le potache au cochon.
Exactement.
Simono, oui.
De notre camarade Simono, oui. Qui a dégonflé une capote géante, garde à vue, fenêtre ouverte, pas de couverture, couché sur le ciment. Tout ça pour manque de respect pour la Sainte Capote.
Pardon, je t'ai pas entendu.
Simoneau, qui est un militant du front dans le 9-5. Devant chez lui, je raconte pour Pelletier, parce qu'il connaît pas, évidemment, parce qu'à Soulac, ça échappe un peu tout ça. Donc devant chez lui, la municipalité de, comment ça s'appelle?
Taverny.
De gauche.
Non, même pas. Si.
C'est PS.
Donc la municipalité de Taverny fait installer sur un rond-point un préservatif de je sais pas combien de mètres de haut, gonflé à l'hélium ou à l'hydrogène.
Et ils se foutent de nous parce qu'on les met à l'index. Oh, pardon.
Et alors, le gars trouve ça absolument indécent, ce que j'aurais fait aussi. Il sort de chez lui et prof, il met un coup de rasoir dans ce truc et a dégagé. Dans le préservatif vide, bien entendu. Enfin, plein d'air. Et il est dénoncé par un voisin, bien, puisqu'on est en France, naturellement. Il a bien écrit la commandanture. Mon voisin, non content d'être juif, etc. Enfin, c'est la vieille blague d'Alimi. Voilà. Alors, les flics viennent chez lui, enfin le convoquent une semaine après. Il arrive au commissariat, il se pointe, et on lui dit, monsieur, venez pas ici, on n'a pas le temps de vous entendre maintenant, on va vous foutre en garde à vue. Ils l'ont mis 20 heures en garde à vue, en cellule. Comme il se plaignait, on lui a piqué sa veste, parce qu'on a trouvé qu'il risquait de se pendre avec les manches. Et comme il disait qu'il faisait froid, eh bien, il y a un flic qui est venu et qui a ouvert la fenêtre de la cellule, en laissant les barreaux, bien entendu. Et de minuit à 4 heures du matin, Simoneau a crevé de froid sur le béton de la cellule. Et au bout de ce temps-là, on l'a interrogé. Il est sorti à midi. Et il est donc poursuivi. Et la municipalité lui réclame le prix du préservatif géant qui est de 9000 euros, c'est ça?
Non, c'est loin du préservatif gratuit.
Mais attends,
c'est nous qu'on paye.
Il a plainte ou pas?
Ah bah, il a un avocat qui se débrouille. Je pense qu'ils sont pas...
C'est Maître Valrand de Saint-Just, alors ça devrait aller.
Ah, c'est Saint-Just.
Oh, bah, il est tranquille.
Vous vous rappelez, Serge, qu'il y a quelques mois, notre ami Anthony s'était formalisé parce que les gens d'Act Up et compagnie à Toulouse avaient manifesté pour ce qu'ils appelaient la Sainte Capote. Et donc, Anthony était vexé et furieux en tant que chrétien qu'on parle de Sainte Capote. Mais quand on voit cette série d'incidents, ça n'est pas du tout pour plaisanter que les tenants, les héros de l'idéologie dominante parlent de capote sacrée, puisqu'ils sanctionnent la moindre plaisanterie, la plus classique sur les préservatifs de façon aussi brutale.
De toute façon, maintenant, il n'y a plus que ça. Il y a la Trinité, c'est le Pax, la capote, et puis je n'ai pas encore trouvé le troisième, mais ça finira par venir. Oui, probablement.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Non, mais ça devient un peu fatigant quand même. Je pense que tout ça... Moi, ce qui m'étonne, c'est la passivité de notre pauvre peuple en face de ça. Parce que c'est les Français... Il y a quelques Français qui continuent à avoir des enfants. Ils avortent pas tous, quand même. Moi, si j'avais encore des enfants en âge d'entendre des trucs comme ça, je passerais mon temps à me battre, à taper les gens, à crever les capotes anglaises au rond-point. Non, mais enfin, c'est incroyable que les gens acceptent ça... Je sais pas, la Gay Pride, il y a 200 000, ça, qui défilent en tortillant de Trophignon.
Adeptes d'une sexualité différente.
On avait publié dans le Libre Journal à cette époque-là le camion de la CGT sur laquelle.
Du PCF.
Sur lequel il y avait deux types, alors vraiment, ça, cela, je dois dire, ils les avaient sélectionnés spécial parce que c'est pas le vice grec, là. C'était des gros mimules avec des bedaines presque équivalentes à la mienne.
Ça s'appelle les Barbers.
Les Barbers.
Ils ont leur QG.
Pas comprendre. C'est les poupées Barbers.
Rue des Lombards. Il y a un bistrot où c'est spécialisé là-dedans.
Leur QG.
Leur QG, oui. Ils pouvaient être gros et barbus.
Eh bien, ils avaient publié ça. Ils avaient fait cette photo, on avait publié dans le Libre Journal en disant Lénine revient, ils sont devenus fous.
Les nounours.
Bon, à propos de fortitude, de bravitude, j'entends partout, y compris sur cette radio, je suis obligé de le dire, des propos qui montrent que... Enfin, les gens ne travaillent pas, quoi. Les journalistes ne travaillent pas. Je suis abasourdi de voir à quel point tout le monde dit « mais néologisme, ça n'existe même pas ». C'est pas vrai, ça existe, ce mot, il existe. Il existe, et encore une fois, il suffit d'aller sur Internet, on va le trouver. Et en plus, il y avait des choses rigolotes à raconter qui sont dans le Libre Journal. Hein,
il y a Victoria, chef, qui fait des grimaces derrière votre dos.
Pourquoi il fait ça?
Non, je n'ai pas Internet. Donc.
Bah oui, alors donc vous pouvez rien savoir. Non mais, le mot existe, la bravitude existe, un mot. C'est un néologisme qui a été fabriqué, mais qui a été fabriqué il y a des années.
Par qui? Des noms?
Eh bien, je vais vous le dire, si vous me laissez parler au lieu de m'interrompre tout le temps.
Oui, laissez-le parler.
Il y a un jeu, enfin un patch, ça s'appelle un patch d'ailleurs, un supplément de jeu informatique, qui fait partie d'un ensemble de jeux qui s'appelle Lara Croft. Les aventures de Lara Croft, c'est Lara Croft, c'est ni plus ni moins Ségolène. Hein. Et ce patch s'appelle Nine Walk. En français, les chasseurs de nains de jardin.
Ah,
c'est amusant ça.
Ça complique.
Eh bien, les chasseurs de nains de jardin, dans leurs échanges
épistémologiques,
pistolier ou épistolaire, eh bien, ils emploient le mot bravitude au lieu d'employer le mot bravoure. Ah.
Alors, tac dans les dents, Victoria.
Voilà, alors l'instinct...
Nananère.
Un poète canard, oui.
Je vous laisse bon. Vous...
Non, mais donc,
ça existe
On est en train de me dire... Serge de Beketch ne défend pas la langue française. Et, attention, Victoria ne réagit pas.
Ah.
Quel dommage. Je ne suis même pas
perçue. Qu'est-ce que j'ai fait?
Je ne sais pas.
Il ne va pas avoir le prix.
Il faudrait nous le rappeler, ça.
Non, je vais encore rater le prix d'Audet, je le sens.
Cette année, c'est foutu encore.
J'ai droit au prix Baudet ici.
Pour ceux qui seraient perdus, je les renvoie au numéro 396 du Libre Journal, où nous expliquons sur deux pages pleines ce qu'il en est de cette bravitude, de son origine.
Ça va quand même beaucoup plus loin que ça.
Son passé comme de son avenir. On traite aussi.
C'est remarquable d'un très bon collaborateur qui s'appelle Igor Verhoff.
Oui, excellent. On traite aussi de la transfiguration de Sœur Sourire, je veux dire Sainte Ségolène, qui avait le minois nettement moins souriant et nettement plus fripé il y a quelques années. Alors, j'entendais Victoria se plaindre de ne pas rajeunir tout à l'heure. Ben, qu'elle prenne l'adresse du dentiste et du chirurgien de Sainte-Ségolène et elle rajeunira autant qu'elle voudra.
Ah non, mais là, il faut dire la vérité. Non, j'ai des informations.
Elle était mignonne il y a une vingtaine d'années.
J'ai corrigé un peu.
Je vous ai mignonne il y a une vingtaine d'années. Moi aussi, j'étais mignon il y a une vingtaine d'années.
Très mignon il y a 20 ans.
J'étais mignon comme tout.
Je vous ai adressé un avis de spécialiste, d'un grand spécialiste, de vos lecteurs.
Absolument.
Je salue parce qu'il doit nous écouter.
Et que je remercie aussi, mais il faut quand même dire que le premier qui a révélé cette affaire, qui est étonnante, parce que c'est Ratier dans Faits et Documents. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est d'ailleurs ce que confirme le correspondant de Jean-Pierre, c'est que le fait que Ségolène ait subi une telle avalanche d'interventions, ça veut dire que ça fait au moins, au minimum 3 ans et plus vraisemblablement 5 ans qu'il travaille sur la bête, si j'ose dire. Or, ça rejoint quand même, ça, tout à fait, une chose que personne ne semble rappeler, c'est que après le deuxième tour de 2002, Le Pen interviewé sur les prochaines élections, donc c'était pas en 2007, ça devait être en 2009 puisque le quinquennat n'était pas voté. Le Pen avait répondu, bien sûr, je me représenterai en 2009 et je serai candidat contre la candidate PS qui sera Ségolène Royal. Alors l'équipe, toute la presse a dit, il est complètement givré le vieux Ségolène Royal, qui c'est celle-là? Et ben, il a été le premier à le dire. Alors à mon avis, d'abord parce que c'est un virtuose de la politique, il a quand même quelques heures de pilotage, hein, mais aussi parce qu'il avait dû avoir des bruits. Et c'est vrai que dès cette époque-là, le groupe Hill & Knowlton, qui est un groupe de manipulation de l'opinion publique, un groupe qui appartient à un gigantesque consortium américain qui est sous contrôle des services spéciaux américains, avait choisi Ségolène et Sarkozy. Parce que ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est que les deux candidats à la présidentielle de 2007 ont été choisis par la Camarilla, la mafia mondialiste.
Ségo et Sarko sont dans un bateau.
Ouais. Alors, de toute façon, ils ont deux fers au feu. Quoi qu'ils sortent, ils s'en foutent de toute façon, c'est la même politique.
Tenez, Serge,
je pense que c'est Le Pen.
intéressant.
Oui, le marquis est en train de vous tendre, Serge, une série de messages de gens qui ont entendu la rediffusion de l'émission avec Jean Ferret, où notre chroniqueur mondain était cette fois présent en qualité de franc-maçon.
Il y avait pas mal d'années. Quand
voilà. Alors, il faudrait peut-être rassurer un peu les gens, parce que les messages dégringolent.
Ah non, mais là, je suis abasourdi, j'apprends une chose, alors mais je n'en reviens pas. Écoutez, non, mais c'est pas croyable. Alors voilà. Si le marquis est fatigué, nous dit un auditeur, n'est-ce pas parce qu'il a écouté pendant 2 heures ce dimanche la rediffusion d'une émission de Jean Ferret où il participait au titre
de la maçonnerie, je peux bien comprendre,
de l'association maçonnique pour l'extension de
Radio Courte Oisille
en FM, en franc-maçonnerie, non,
oui.
En, en déviation de fréquence.
Oui.
Ah, mais c'est vrai.
Oui,
mais vous étiez franc-maçon ?
Oui, oui.
Non, me dites pas ça.
Mais l'autre message, je vous demande de guérir, mais c'est fait.
J'ai appris lors d'une rediffusion de dimanche dernier que notre divin marquis était franc-mac. Je n'en suis pas encore remis. Comment est-ce possible ? Une chose possible est-elle pareille ? Quelqu'un de si intelligent et si drôle, c'est Serge Guérissez-le, mais c'est fait.
C'est fait.
Si vous aviez lu son livre, vous le sauriez. Ah
ben voilà,
ce qu'il raconte, comment je l'ai exorcisé dans sa voiture.
En imposant les mains.
Que vous avez l'adresse aujourd'hui de votre éditeur?
Oui, je vais l'avoir.
28 euros. Alors, les mémoires du marquis, où il s'explique sur la franc-maçonnerie et sur pas mal d'autres choses un peu tangentes.
Ah, je sais pas si je peux faire quand même une confidence aux auditeurs.
Allez-y,
tant pis, je vais perdre. On va perdre 1 milliard d'auditeurs.
Oh là là, j'ai peur.
Hein?
Ouais. Allez-y.
Enfin, moi aussi.
Vous en fûtes.
J'en fûte.
Bon, alors, Société des écrivains, 147-149 rue Saint-Honoré, 75 000 à Paris, franco 29 euros, mais ceci est une autre histoire.
Voilà, voilà. Par le marquis d'Olmeta.
Mais ceci est une autre histoire, et le titre, n'est-ce pas ?
J'en fûte aussi.
Voilà.
Mais je veux dire qu'à ma grande surprise, quand j'ai claqué la porte en partant, ou pour même pas claquer la porte, j'ai arrêté de donner des sous. Ça a été radical, d'ailleurs, parce que il suffit de plus payer sa capitation, puis on n'est pas, contrairement à ce que disent les gens, on n'est pas décapité pour autant.
J'étais un petit peu poursuivi quand même.
Ah bon ?
Et j'ai essayé de vous assassiner. Ici, après, j'ai été sollicité par une autre obédience qui essayait de me récupérer.
Ah, oh, bah ça. Oui, mais ça, c'était une obédience bidon, ça. Riton de peau de cochon.
Riton de peau de cochon.
Ouais. Voilà, et eh ben oui, je
vais aller. Elle t'habillait de peau de cochon, mais... tiens, c'est comme la soupe, ça va interdire.
Ouais.
Moi, j'ai vu des musulmans en loge qui portent des habillés de cochon, ça va l'air de les gêner.
Non, surtout que c'est de l'agneau. Alors,
c'est pourtant discriminatoire.
Ce que je veux dire simplement, c'est que je m'en suis confessé et j'en ai été absous. Et même l'abbé de Nantes m'avait donné son absolution. Alors, c'est vous dire à quel point je suis cool là-dessus. Dans le cadre de la défense de la langue française.
Voilà.
Bien, alors ces bêtises étant dites, je dois vous signaler une chose. On l'aura tout à l'heure, je pense, au téléphone. C'est notre excellent camarade Paul-Marie Couteau
débarque ce soir.
Vous êtes au courant ?
Mais tout le monde.
Il sait tout, ce mec, c'est incroyable. Comment tout le monde vous ?
Même moi. Alors ça, c'est vous dire.
Moi, je ne savais pas non plus.
Alors, moi non plus. Qu'est-ce qui débarque ?
À partir de
9h30,
une nouvelle émission.
Le couteau entre les dents, ça s'appelle.
Ah bon ?
Oui.
Non.
Ben, il nous dira tout à l'heure, il fustigera vos mauvaises informations, je sais tout.
En tout cas, ne quittez pas l'antenne, ne quittez pas l'écoute, à 21h30, Paul-Marie Couteau débarque.
Je ne pense pas qu'ils avaient l'habitude, les auditeurs, de quitter l'écoute à 9h.
Parce qu'ils écoutent de la musique après.
En général, il y avait de la très très bonne musique. Et alors moi, je sais que Paul-Marie Couteau vient à 9h30 derrière moi, c'est un challenge.
Et oui.
Hein?
Surtout qu'entre-temps, vous avez votre ami.
Ah, il va encore perdre
un défi.
Oui, mais c'est vous qui êtes en prime time.
Non oui,
voilà, bon.
C'est vrai, je suis en prime time.
Oh Seigneur.
Bon, pour relever le challenge.
Et on a enlevé le petit cochon, je peux même pas les faire payer.
Si, non, il est là le petit cochon.
Il est là, et ben alors, passez la monnaie.
Sous la forme d'une boîte de cigares. Regardez, il y a même des sous dedans.
Oh, bah,
il y a même
bien,
des gens, tiens, je vais les prendre.
Mais je vous les ai donnés.
Qu'est-ce qui a volé le petit cochon en tirelire là?
C'est le préfet.
Donnez pas le prénom, ne donnez pas le prénom surtout. Bien, alors.
Vous écoutez Radio Courtoisie, ma parole.
Oui.
Continuez.
Et un auditeur nous dit la France, grâce à vous, est en pleine déconnatitude. Merci.
C'est une réflexion pleine de bravitude.
Déconnatitude. Bien, alors, On va en venir, on va maintenant parler avec Martin Pelletier. Ah non, vous vouliez dire quelque chose, au fait, Jean-Pierre.
Sur quoi?
Si, à propos de...
Acheter, vendez.
Non, non, c'était pas à propos d'acheter. D'abord, c'est pas ça qu'il fait, Jean-Pierre Andou.
Ah, pardon.
Des conseils sérieux, pas des conseils de petits spéculateurs. Non, c'était à propos de...
Je suis un peu en Alzheimer.
il le tue sous mes yeux.
De l'ancien ministre de la Sécurité, la Pandreau, Raoult.
Oui, c'est que
ils ont fait une proposition.
Ouais, ils viennent de proposer donc Pandreau, Raoult et Abriou. Abriou étant l'ancien maire de d'Aulnay, ou toujours maire, je sais plus. Donc ce sont trois personnages que j'ai bien fréquentés, puisque j'étais moi-même maire adjoint en Seine-Saint-Denis, que j'aurais causé ou élu et que j'aurais causé quelques problèmes quand même. Mais je les connais bien, c'est-à-dire ce sont des gens, parce qu'ils sont en Seine-Saint-Denis, qui ont tendance à avoir un langage avec leurs militants, qui sont des militants qui pourraient être très proches de ceux du Front National ou du MNR, mais qui ensuite vont se prosterner. On l'a vu récemment dans des réunions avec les musulmans ou autres, et donc qui ont deux discours, un discours très très agressif contre l'immigration et un autre discours beaucoup plus. Et ces trois personnages viennent de trouver quelque chose qui va sauver la France, c'est de demander que dans les lycées et dans les collèges, on porte un uniforme unique. Pour qu'il n'y ait plus de distance.
Ils veulent mettre les lycéens et les collégiens en uniforme. Quand on voit que les profs arrivent même... Attendez,
mais on a tous porté la blouse.
On est d'accord, mais...
Ils n'arrivent même pas à faire retirer la casquette aux gars dont on ne donne pas le prénom, qui sont dans les classes. Et mais vous voudriez leur coller un uniforme? Ben dedans, moi je suis pas candidat.
Une casquette avec un uniforme. Gardons la casquette.
Ah oui.
Les militaires en tenue gardent la casquette.
Ils vont assortir l'uniforme.
On pourrait être, on peut être d'accord, Victoria, mais le problème c'est que cette mesure, c'est une mesurette, c'est rien du tout par rapport au problème qui existe en Seine-Saint-Denis.
Et puis c'est les vœux pieux de toute façon. Bien sûr. On dit bien le ministre de l'Éducation.
C'est un scooter sur une jambe de bois.
le ministre...
Un scooter volé sur une jambe de bois.
Laissez-la parler.
Le ministre de l'Éducation nationale nous dit bien que maintenant, non seulement, alors grâce à lui, on ne fait plus de méthode globale, mais qu'en plus, on refait de la grammaire, on refait de l'orthographe, et maintenant on va faire du calcul mental.
L'école alors, nous apprend à faire les grammaires.
Bon, mais dans la pratique, moi, je vois pas. Hein. Moi, je lis avec une petite fille de CE1 qui n'a pas fait, depuis 3 mois, elle n'a pas appris la moindre notion de conjugaison, de grammaire. Et rien.
Elle ne pourra même pas lire en goût, alors.
Ah ben dis donc, c'est quelque chose.
C'est terrible, pas apprendre à lire aux enfants.
Mais ça fait rien du moment qu'on cause, c'est parfait.
Hein? Lire Madame Angot, oui.
Oui, ils ne pourront pas lire les aventures de Madame Angot. Bien, donc...
De toute façon, alors, pas c'est très secondaire.
C'est Raoult aussi qui a fait un discours il n'y a pas très longtemps, en disant que... C'est quel bled, lui
Raoult, enfin, c'est le Raincy, c'est la commune la plus bourgeoise de Seine-Saint-Denis.
Oui, alors il a fait un discours, je ne sais plus dans quelles circonstances, dans lequel il a dit « Le Raincy est très en retard en ce qui concerne le nombre des immigrés, il faudrait quand même faire un effort pour améliorer tout ça.
Eh » ben.
Et les mecs qui vont voter pour lui, naturellement, ils vont voter pour lui.
Il y en a même qui vont voter pour M. Sarkozy, qui demain va nous annoncer qu'il a fait reculer la délinquance et la criminalité en France. D'après l'Institut National de la Statistique, on n'a eu que 12 millions de crimes et délits en 2005.
12 millions.
Je suppose.
Mais il y a un gros truc marrant dans le Figaro de ce matin. C'est que l'annonce, c'est qu'on a 1% de moins de délits en France. Voilà. Mais le Figaro a fait son titre en mettant qu'il y avait 7% de moins sur 2 ans.
Oui, c'est ça. Plus tu pédales moins vite et plus tu roules plus fort. Non, c'est le contraire. Ben oui, mais c'est normal au fond que Raoult ait ce genre de comportement, parce que Pelletier, pas Martin, mais Guillaume. Alors, rien à voir, hein.
Non, rien.
Ça n'est pas votre fils secret.
Non, je le saurais quand même.
Eh bien, Guillaume Pelletier a trouvé que c'était très très bien. Il a dit, c'est vraiment très très bien d'avoir interdit la soupe au cochon, qui est une provocation intolérable.
Alors, il y a toujours, on a beau porter le même nom, il y a toujours des cons qui ont vraiment besoin
de ça. Je ne rêve pas, c'est Pelletier, le numéro 2 du MP.
Oui, c'est le bras droit de...
Le même qui s'était déclaré d'accord avec Mouloud Aounit sur Radio Notre-Dame.
Ah ouais.
Ça a été rapporté dans le Libre Journal, Serge, donc ça vous a peut-être échappé.
Oui, je ne dis pas tout. Hein, parce que si j'ai tout, il y a longtemps que j'aurais arrêté le journal.
Mais, pas bien lu la première page.
Non, mais alors, moi, je ne comprends pas bien. Enfin, je ne comprends pas, d'ailleurs, je m'en tape avec d'une force incroyable, mais.
Attention. Hein, vous pas,
on va avoir des messages. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a eu une avalanche de messages parce que j'avais seulement omis de signaler que Villiers était d'accord avec Le Pen sur.
Du coup, c'est Pelletier qui déchire sa carte du MPR. non, mais Villiers, moi, j'aime beaucoup Villiers. Ça, il sait très très bien ce qu'il fait, le monde des alouettes, les machins, les trucs comme ça, le cirque. C'est bien, hein.
Mais justement, en plus, cette déclaration est tout à fait contradictoire avec ce que fait Villiers en ce moment, puisqu'il est tout, il se prétend contre l'islam, je comprends pas, là, vraiment.
Mais c'est ça. Et en plus, j'ai visité la ferme des animaux en voie de disparition qu'il a montré. Oui. Bah, il y a une truie,
une truie
de je sais pas où, d'ailleurs, qui fait au moins, je sais pas, 16 tonnes, elle fait 4 mètres de long, elle est incroyable. Mais elle est belle en plus. Enfin, bon, problème personnel, bien sûr. Mais,
à mon avis,
c'est un bel animal. Il faut la supprimer, vous vous rendez compte? C'est une provocation intolérable.
Les sont terribles.
Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils se rencontrent?
Serge, s'il faut flinguer tous les boudins, ça va faire des.
Hein, vous écoutez Radio Courtoisie.
Bon, ben voilà. Alors, j'ai cru que vous. Enfin, je crois qu'il est assez clair maintenant que. Je ne voterai pas Villiers et je ne voterai pas Sarkozy.
Il reste Ségolène.
Non, j'ai une autre idée. Je ne vous la dis pas tout de suite.
Non, bah non.
Tâchez de deviner.
Ça commence par le et ça finit par peine. Voilà, maintenant je vous laisse deviner.
Ah, je vois.
Bien, alors, parlons de ce sujet passionnant qui est jeté dans l'actualité par le film de
Mel Gibson.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mel Gibson, maintenant, depuis qu'il a fait Passion, quoi qu'il fasse, il pourrait tourner un film sur les aventures des trois petits cochons. On trouverait encore que c'est un scandale, que.
Mais c'est une provocation.
C'est une provocation intolérable.
Manifeste.
Et là, donc il a fait un film, il s'est dit probablement, là je vais être tranquille, les Mayas, bon, en gros, ça risque pas grand. Oh là là, mon ami. Alors l'association des critiques de films américains qui doivent pas aller souvent au cinéma ont dit qu'ils avaient jamais vu un film aussi violent, que c'était le film le plus violent de toute l'histoire du cinéma mondial.
J'ai dit pour la passion.
Oui. Le Parisien Libéré, aujourd'hui, le Parisien Libéré fait état de cette rumeur pour la démentir. Je le cite, chez nous, ce film a été précédé d'une rumeur terrible. Avec ce film, Apocalypto, donc sorti aujourd'hui dans 450 salles françaises, Mel Gibson, 51 ans, je ne vois pas ce que son âge vient faire là-dedans, allait au-delà de la violence complaisamment montrée dans sa Passion du Christ en 2004. Vous voyez la filiation. Et puis, voilà, l'article, Pierre Vavasseur, notre confrère du Parisien Libéré, dément cette rumeur et dit que, et conclut d'ailleurs son papier, parce que visiblement c'est le sujet central pour lui, la violence de ce film. Il vaut tout juste son interdiction au moins de 12 ans.
Oh ben c'est pas méchant.
Ah, il est même obligé de revenir sur le scandale des dérapages automobiles et verbaux de Mel Gibson à Los Angeles il y a maintenant un an, je crois.
Écoutez ce que dit la communauté des journalistes.
Ou les journalistes de la communauté.
La communauté des journalistes. Pourquoi vous faites des inversions de sens comme ça?
C'est pas bien ça.
Un cinéaste primaire et primitif, le point. Un film qu'on peut seulement recommander aux spectateurs doués d'une tolérance pour la barbarie digne d'un camp de concentration. Los Angeles Times. Une brutalité qui transforme l'horreur en comédie grotesque. Le Wall Street Journal. Une surenchère sanglante. Le Monde. Quand il y a une unanimité comme ça, en général, ça flingue un peu, je trouve. Ouais.
Alors justement, quand il y a une polémique contre une œuvre quelconque, il y a trois possibilités. Ou bien c'est contre l'œuvre, parce que l'œuvre mérite la polémique, ou bien c'est contre l'homme, ou bien c'est le sujet. Et le principe qu'on a retenu, c'est d'essayer de balayer les trois choses, de montrer et à l'évidence, et ça si vous voulez, on en parlera rapidement, que la polémique ne trouve aucun fondement dans le film lui-même, et puis après simplement on se demande pourquoi, on a déjà une partie de la réponse quand on connaît Mel Gibson, et puis il y a le sujet des Mayas, qui contrairement à ce qu'on croit est un sujet très sensible d'une certaine manière. Voilà.
Alors, votre bouquin s'appelle « Les Mayas au risque de l'histoire, apocalypto, mythe, mystère, polémique ». Donc, c'est très bien résumé. Il est paru aux éditions de la Renaissance, de Renaissance catholique. Et je dis tout de suite, pour ne pas l'oublier, que vendredi, vous signez à la librairie France Livre. Hein.
On fait une signature vendredi après-midi à partir de 15h, c'est ça Victoria?
15h jusqu'à 18h30.
Et vous, quelle adresse?
Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont.
La librairie du Petit Pont.
C'est bien la première fois qu'on signale. Toujours dans le même article du Parisien Libéré, on nous dit que, aux yeux d'archéologues, pas des archéologues, hein, d'archéologues, ça veut dire de certains archéologues qui s'expriment sur le sujet, et d'historiens, cette reconstitution menée à grands frais, 70 millions de dollars, au cœur d'une forêt tropicale mexicaine, ne tient pas debout. Ni les pyramides, ni les fresques n'ont trouvé grâce aux yeux de ces spécialistes.
Alors justement, quand même, il faut dire un petit mot de la, puisque c'est comme les deux tiers du bouquin, sur la polémique proprement historique. C'est parti aux États-Unis. Ils ont dit ce livre et ce film est totalement idiot, ne tient pas debout parce qu'il confond les Aztèques et les Mayas, plutôt. Alors quand c'est venu en France, la polémique n'a plus beaucoup tenu. Vous avez encore un peu Le Monde qui en parle dans un vague encadré, un tout petit peu un mauvais article du Figaro, mais les trois quarts des journaux ne reprennent pas cette confusion prétendue entre Maya et Aztèque, pour une bonne raison, c'est qu'elle n'existe pas et qu'il est facile de démontrer qu'elle n'existe pas. Les Américains qui avaient fait cette polémique, cet argument de polémique, se fondent sur des informations historiques de 1950. Où on pensait à l'époque que les Mayas de l'époque classique, c'est-à-dire 10e siècle, étaient des gens extrêmement doux, uniquement portés sur l'étude des étoiles, du calendrier et des mathématiques. Un archéologue américain assez connu, Thompson, disait que c'était les Athéniens de l'Amérique précolombienne. Mais depuis 1950, on a fait des progrès colossaux. Et notamment, on a commencé à décrypter réellement l'écriture maya, ce qui n'était pas le cas avant, grâce aux linguistes russes, notamment dans les années 60. Et on sait maintenant, simplement en lisant ce qu'il y a sur les temples mayas de l'époque classique, que dès l'époque classique, il y avait des guerres, des conquêtes qui apportaient leur lot de sacrifices humains et de cannibalisme. Bon. Donc, c'est, si vous voulez, l'argument, Mel Gibson a confondu deux choses, Maya et Aztèque, tenait dans les années 50, et ils sont encore restés à ces choses-là, mais ne tient absolument pas en 2000. J'ajouterais que, entre le Maya classique et le Maya que filme Mel Gibson, il y a 600 ans qui se sont passés. On n'est pas en 1950 quand il filme, on est en 1500 et des poussières, puisqu'on voit les premières caravelles. Et entre les 900 et 1500, il y a eu plusieurs invasions du Yucatan, notamment celle des Toltecs, qui était un peuple extrêmement guerrier, aussi brutal que les Aztèques. Et ensuite, il y a eu le sac des dernières villes de là-bas, qui a fait que la décadence a été encore plus décadente, et que ce que nous montre Gibson est globalement juste. Alors maintenant, on a changé le fusil d'épaule. C'est ce que vient de rappeler Patrick Goffman, c'est ce que disent le Parisien Libéré, le point aussi qu'il fait plus finement. On dit oui, mais il y a des inexactitudes. Tout de même, c'est quand même pas... il y a des inexactitudes. Alors moi, j'ai une question à poser, simplement. Quand vous allez voir Antoine et Cléopâtre, quand vous allez voir...
Justement, à propos de Cléopâtre, quand le film Cléopâtre est sorti avec Elisabeth Taylor, j'étais en relation tout à fait par hasard. Enfin, j'étais un tout jeune homme et j'avais été reçu par... un des plus grands historiens français, qui avait une fille qui était ravissante, et pour laquelle mon frère avait beaucoup d'intérêt, raison pour laquelle j'avais été reçu. Je veux dire, j'ai pas été reçu parce qu'il s'intéressait à moi, mais bon. Et donc on était chez lui. Et le film est sorti, et il parlait justement de Cléopâtre, il était allé le voir, et il disait, vous savez, pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de l'Égypte ancienne, c'est assez surprenant à voir, parce qu'il y a des scènes. Pour vous donner une idée de ce que ça donnerait rapporté à l'histoire de France, on verrait arriver en pleine bataille de Crécy des chars AMX 30 qui mitrailleraient la foule, bon, etc.
Alors, absolument.
Il y avait des anachronismes invraisemblables. Et à l'époque, personne ne s'en est occupé.
Et plus récemment, Serge, il y a eu le film sur Alexandre, moi, que je me suis tapé du début jusqu'à la fin, qui a été loué par absolument toute la critique, ou sur lequel personne, sauf probablement chez nous, n'a fait la moindre réflexion. Mais tout est bidon, naturellement. Excusez-moi de terminer juste là, mais alors que si on va maintenant regarder, si vous voulez, les poux dans la tête de Mel Gibson, comme l'a fait Le Point, et on se rend compte, c'est d'ailleurs tout, je fais tout un chapitre là-dessus, que c'est quand même une archéologue pointue qui est maître de recherche au CNRS et qui vraiment lui cherche des poux dans la tête, mais elle ne trouve presque rien, et ce qu'elle dit est très conjectural, parce qu'il faut quand même se penser une chose, c'est qu'on parle des Mayas, de ceci, de là, mais on a sur ces civilisations extrêmement peu d'informations. Toute notre science est largement conjecturale. Alors quand un chroniqueur d'aujourd'hui va nous dire oui, mais enfin tout ça tient pas debout, on a envie de dire mon pauvre ami, sur quoi vous fondez-vous?
Surtout quand on connaît le niveau de la culture journaliste.
Oui, quelles sont ses compétences?
D'où tient-elle sa science? Vous voulez dire quelque chose, Marc?
C'était pas terrible, mais ça a apporté une petite pierre à l'édifice. Je viens de regarder il y a pas longtemps le DVD de Guerre et Paix. Tous les films, on voit Napoléon, quand on voit comment il est habillé et comment il portait la Légion d'honneur, ben là aussi.
Oui. C'est vrai.
Par exemple.
Bon, enfin là, c'est excusable. Hein. Non, le film est beau, Guerre et Paix.
Oui, c'est pas vilain quand même. C'est déjà beaucoup mieux.
C'est le plus mauvais titre, d'ailleurs, quand on connaît le bouquin qui doit faire 800 pages, hein, un bouquin de 800 pages, qui s'appelle Guerre et Paix, c'est vraiment de l'arnaque.
Très effrayant, oui.
Bon. Mais pour en revenir vraiment, parce que quelques mots encore pour terminer sur cet argument, les inexactitudes. Il y a des simplifications. Par exemple, il y a des simplifications énormes. Le héros se prend un coup de lance et il continue quand même à courir. C'est beaucoup plus invraisemblable que le fait qui est effectivement inexact, que les captifs qui étaient prisonniers, normalement il y avait un certain temps avant qu'on les sacrifie, et là on les sacrifie tout de suite. On comprend bien pourquoi, c'est pas pour truquer, simplement pour donner plus de rapidité au film. Mais je ne vois pas en quoi tout ça serait susceptible de tromper le alors que d'abord, par exemple ça ne trompe personne.
C'est pas une tromperie.
Et puis,
ça montre en revanche quelque chose, je crois, Martin, c'est que parce que bon, je reviens sur la question de ce que Jean-Édouard Dernally appelait la sous-culture journalistique. La plupart des gars qui font des papiers là-dessus, ils n'ont pas la moindre idée de ce dont ils parlent, mais pas la moindre. Hein, les Atopec, les Olmec, les Toltec, les Chichimec, les Biftec, les Mayas, bon, tout ça. Ils savent, pour eux, c'est de la bouillie pour les chats. Ils savent pas si c'est 2000 ans avant Jésus-Christ ou 15 siècles après. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ah, ils savent qui est Zidane. Voilà, en gros, c'est ça, et que Ségolène est né dans le Poitou, ce qui est faux d'ailleurs. Bon, alors, en dehors de ça, ils ne savent rien. Les journalistes sont des crétins analphabètes pour la plupart, 99%, sauf les personnes présentes ici. Ils ne savent rien. Donc, il y a quelqu'un derrière. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui prépare une espèce de paquet d'informations et qui dit voilà ce qu'il faut dire. Hein. Il faut attaquer sur différents plans. Alors, il faut attaquer sur la violence. Bon, la violence, naturellement, l'emmerdement, c'est que ça a plutôt tendance à attirer les gens. Alors, il faut pas trop insister là-dessus. En revanche, il faut insister aussi sur le côté mensonger du film. Alors, qu'est-ce qui est mensonger? Ben, il faut trouver des arguments.
Justement, et là, c'est très intéressant dans cette polémique, c'est que ça part d'un argument pour aller sur l'autre. Il y a un glissement sans arrêt. Et le fait, si on a été chercher, par exemple, dans Le Point, c'est là où ça a été fait avec le plus d'intelligence, parce que quand même, elle a donné vraiment 2 ou 3 exemples qu'on est obligé de reconnaître de réelles inexactitudes ou simplifications. Eh bien, je crois que c'est pour avoir une espèce de quand même sur quoi le reste peut s'appuyer, on dira, mais oui, elle a tout de même trouvé des inexactitudes, donc il y a des inexactitudes, donc le fait que les Américains l'aient attaqué au début n'était pas tout à fait justifié.
Oui, ça se tient comme ça. Bien que les Américains, qui est un peuple de culture, vraiment un vieux peuple de culture, soient indignés par le fait qu'on montre, je ne sais pas, un objet du 3e siècle voisinant sur la commode du Chichimec roi des Patagons à côté d'un objet du 8e siècle.
Et cela dit, maintenant, Serge, je voulais vous dire, parce que je l'ai vu, ce film, évidemment. Et
oui,
quand on le voit, eh bien, d'abord, on en reparlera, on était vraiment très étonné de voir ce qui est écrit dessus, mais surtout on est très étonné de voir la qualité du travail historique, proprement historique, qui est, à part deux ou trois simplifications, c'est extrêmement fort du point de vue historique. Les reconstitutions dans les rues, le symbolisme qui est tous les prédictions, tout est vraiment fait au petit poil. Alors, c'est vraiment du très beau travail, alors, indépendamment du film qui est assez beau.
Alors elle est peut-être un peu maladroite, cette main occulte à laquelle Serge faisait allusion à l'instant, parce que dans cette affaire, comme dans celle du film La Passion, le résultat de ces injonctions, de ces attaques, quel est-il, sauf sinon de faire une publicité énorme à ce film. La Passion était un triomphe, ce film-là va marcher aussi. J'ajoute, je vous demande encore un tout petit instant, j'ai l'impression que ces gens, ces journalistes, attaquent systématiquement Mel Gibson pour une très bonne raison, à savoir, mais complètement étrangère au débat, à savoir que c'est un catholique traditionnaliste, et que nous, pour finir quand même, pour dire les choses de façon complète, et que nous le défendons avant même d'avoir vu son film, pour la raison symétrique, pour la même raison, un catholique traditionnaliste.
C'est pas pour ça qu'on défend Gibson, parce que on voit bien qu'il y a une manœuvre, qu'il y a une conjuration, et on se dit, et c'est ça qui est intéressant, nous on sait pourquoi il y a cette conjuration, et il faut lire donc le bouquin de Martin, ça va sans dire, mais dans l'éditorial de Gégère dans le Figaro hors série, est formidable parce que Gégère montre très bien, en peu de mots, que en fait c'est exactement la même chose que La Passion, car c'est le même film. La Passion du Christ telle qu'elle est filmée et La Passion du héros de d'Apocalypto qui tente d'échapper à la masse de ses poursuivants et qui monte au calvaire littéralement, c'est du même ordre. C'est une représentation symbolique en quelque sorte de la passion et la fin du film, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a un épisode dans le film qui est l'arrivée de la grâce, en fait.
On peut, c'est vraiment tirer les choses, mais effectivement, il y a une, disons que la fin, c'est une caravelle qui arrive à l'horizon, qui débarque, et le héros dit on va recommencer à rien, ceci est une autre histoire. Voilà, donc on peut imaginer effectivement qu'il y a une échappée.
On va demander des droits, Marc.
Cela dit, oui, là on est sur ce qui nous a intéressé de faire, c'est donc établir soigneusement que la polémique est truquée, qu'elle n'a pas de base, ou des bases extrêmement faibles. Et effectivement, après, on peut se poser deux questions. C'est pourquoi Mel Gibson et pourquoi les Mayas. La première question, vous l'avez dit, Patrick Goffman, il y a le catholicisme de Gibson, ça c'est clair. Il y a aussi certainement ces réflexions qui ont été jugées antisémites, que je ne connais pas, mais qui sont absolument relatées dans tous les papiers. Quand Serge parlait de... Il n'y a pas besoin de chef d'orchestre, d'ailleurs, là-dessus. Non, tous les papiers, tous sans exception, aux États-Unis ou en France, on peut dire ce film, parce que certains disent le film est bon quand même, certains disent il est moins violent qu'il n'y paraît, d'autres disent il est super violent, certains disent il est raciste, d'autres disent il est très bien fait, mais pas un nommé de dire... Mel Gibson antisémite. Ça, c'est la seule chose que j'ai trouvée dans tout le dossier de presse.
Qui a écrit le scénario, c'est lui
ou... Lui et sa co-scénariste qui a un nom arabe, je ne sais pas de quelle nationalité elle. Donc c'est certainement, évidemment, depuis la passion qui a été jugée d'une façon totalement ridicule antisémite, il a donc cette étiquette et il est donc à flinguer. Il est à flinguer pourquoi? Parce que contrairement à vous et moi, Mel Gibson fait des dizaines de millions d'entrées. C'est que c'est un ovni dans ce système, puisqu'il est dans le système et il n'est pas forcé de fermer sa gueule sur tout.
10 nominations aux Oscars.
Voilà,
c'est
la seule personne
qui est... 5 Oscars en 95 pour Braveheart.
Mel Gibson est la seule personne au monde dans cette position. Ouais. Je ne dis pas qu'il est antisémite, je pense qu'il ne l'est pas, d'ailleurs comme il l'a dit. Je dis simplement qu'il n'est pas forcé de fermer sa gueule en permanence quand il montre le grand Sanhédrin désagréable, parce que c'est dans l'Évangile, et bien il n'a pas l'impression d'être antisémite, il ne va pas retrancher la scène. Si nous étions à sa place, nous serions serions probablement en train de chercher quelques dollars et nous retrancherions la scène.
Certains prétendent, mais je ne veux pas m'avancer, je ne voudrais surtout pas être accusé de faire des erreurs historiques comme Gibson. Certains prétendent que les évangiles auraient été écrits par des juifs. Non, mais bon, c'est un bruit qui court. Hein,
pas il n'y avait pas un grec dans la bande.
Hein, ils écrivaient en grec, oui, c'est probable. Mais, enfin, on dit ça, hein, mais je n'ai pas de preuve définitive. Hein,
et cela dit, Serge, si on a encore 5 minutes, je ne sais pas. Il y a la troisième question qui se pose. Pourquoi les Mayas? Vous disiez tout à l'heure que les Mayas, c'est apparemment un sujet calme. C'est vrai, apparemment, mais apparemment seulement. Parce que si on se souvient bien de l'histoire du XVIe siècle, c'est le moment où, c'est le siècle d'or de l'Espagne, l'Espagne est toute puissante, et c'est le moment où les puissances protestantes et la France, parce que la France a peur de l'Autriche et de l'Empire de Charles Quint et de Philippe II, vont chercher tous les poux possibles dans la tête des Espagnols. Et il y a une formidable légende noire de la conquête de la Nouvelle-Espagne qui va être faite par les historiens protestants, les historiens français. Il y a un texte, par exemple, pas seulement historien, un texte que je cite dans le livre, un texte de Montaigne. Pendant Montaigne, souvent l'esprit critique, sceptique, mais qui gobe toutes les pires bêtises sur la question. Et depuis le XVIe siècle, il s'est constitué une légende noire de ce qu'ont fait les Espagnols en arrivant en Amérique latine. Et cette légende noire a servi de fondement, de fondation, au mythe du bon sauvage. Ce qui fait que finalement, les erreurs intellectuelles et historiques que nous subissons depuis 500 ans, finalement, sont parties de là. Et le Maya est particulièrement intéressant à cet égard, parce que plus personne ne peut défendre l'Aztèque ou l'Inca, puisque même dans le Parisien libéré, ils savent que les Aztèques étaient d'atroces guerriers, des conquérants qui avaient des pratiques extraordinaires, qui faisaient vraiment des chasses à l'homme pour avoir des viviers de type à massacrer, etc. Et les Incas aussi. Donc le Maya, jusqu'à présent, on gardait un Maya qui était le dernier, à la fois un super raffiné, pour ça qu'on dit toujours, mais Gibson n'a pas rendu la civilisation athénienne, etc. Un super, et en même temps un bon sauvage. Et là, il casse la baraque de la légende noire anti-espagnole et anti-catholique et du bon sauvage. Alors avec ça, évidemment, et en plus il le fait avec talent et avec des millions de types qui vont le voir. Ce type est à plan pendre. En plus il est antisémite et il boit. Et quand il boit, il pourrait écraser un enfant ou tuer sa secrétaire, comme font beaucoup de gens. Et ça, c'est pas grave. Mais il dit, les Juifs nous emmerdent. Alors ça, c'est beaucoup plus grave.
Oui, ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est exactement ça. Il a tout à fait raison ils ont tout à fait raison de se plaindre de ça. Parce que c'est vrai qu'il aurait pu faire ce que fait tout le monde, enfin, ce que fait n'importe qui quand il est bourré, c'est-à-dire engueuler les flics et tout. Bon, cela dit, il faut reconnaître que quand les flics l'arrêtent parce qu'il a bu un coup de trop au volant de sa voiture et que le seul argument qu'il trouve, c'est de dire il faut bien reconnaître que c'est pas d'une logique imperturbable. Mais si les ivrognes étaient logiques, ça se saurait depuis longtemps. Voilà. C'était ce qu'on appelle des propos d'ivrognes.
Voilà. Bon. Et c'était le 28 juillet dernier et on nous le resserre à tous les repas depuis.
Oui, mais ce qu'on voit très bien, c'est que, en fait, l'anti-gibsonisme remonte bien au-delà de ça. C'est quelqu'un qui a toujours pris le contre-pied des tendances depuis ses premiers films, le contre-pied des tendances générales à l'affaissement, à l'abolissement, à l'abaissement. Déjà Braveheart, c'est admirable,
superbe. C'est probablement
c'est un film
bien avant son première trilogie là. Comment
Mad Max.
Ah bah oui, mais c'est pas un film de lui.
Mais donc Braveheart, c'était ça, c'était l'exaltation des valeurs de l'homme occidental, quoi. Le courage, l'héroïsme, le dévouement, la résistance, l'esprit de résistance.
Et ce que veulent les femmes, c'est pas mal non plus.
Ça, c'est rigolo, oui. C'est un joli film. Oui.
Ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est pas mal. Donc.
Alors, un auditeur nous dit Apocalypto est très très bien diffusé. Oui, c'est ça aussi. Qui est,
450
comme ce type
c'est Disney. C'est Disney le distributeur.
Et oui. Et puis alors, cet auditeur nous dit... Alors là, on va le faire, hein, puisque c'est demandé, mais je suis désolé, je sais qu'on va faire de la peine à beaucoup d'auditeurs, mais il faut dire... Chacun a le droit de dire sa vérité, et en l'occurrence, le marquis va nous la dire, je pense. Alors, cet auditeur nous dit, vous devriez parler de la nativité. qui est paru avant Noël et n'a tenu qu'une semaine, je dirais que là, il y a une certaine logique. Après Noël, un film qui s'appelle La Nativité...
Le Marquis va enchaîner sur Le Monde du Silence.
Alors voilà, et le deuxième film dont l'auditeur voudrait que nous parlions...
Que nous avons vanté sans mesure
la
semaine
dernière. C'est Le Grand Silence. Dont on nous dit qu'il est magnifique. Alors, c'est pas une opinion que partage le Marquis. Ça.
Non, mais j'ai trouvé Le Grand Silence un film détestable sur deux plans. Sur le plan cinématographique, après tout, ça compte aussi. Et sur le plan de montrer ce que peut être la prière. On n'a pas envie de prier dans les conditions où prient les moines montrés à la Grande Chartreuse. Quant au film, c'est très mauvais. Avec un caméscope déréglé, j'en fais autant.
Il paraît que le dialoguiste, c'est un type qui photographe au monde, normalement.
Alors, je signale que votre ami Jérôme Brigadier tient à peu près les mêmes propos que vous dans le Libre Journal,
comme c'est curieux,
396 qui vient de paraître. Ouais. Je donnerai les références pour se procurer ce.
Moi, je me suis profondément ennuyé, alors que j'y partais avec la fleur au fusil. Mais...
Bon, là, on parle du grand silence et la nativité.
Je vais vous demander de coiffer vos micros.
On va se blesser, chef.
Vos oreillettes, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que nous avons, je crois, Paul-Marie Couteau au téléphone. Allô, Paul-Marie Couteau ?
Oui, bonsoir, Serge.
Comment allez-vous ?
Écoutez, très bien. Je vais d'autant mieux que je m'apprête à lancer une nouvelle émission pour notre radio chérie, notre radio commune.
Ça, c'est une véritable innovation. Alors, le principe, donc, c'est que à partir de 9h30, vous essayez de réparer toutes les bêtises que j'ai dites pendant 9h, non ? C'est pas ça ?
Non, je vais les prolonger. Je vais les prolonger, vos chères bêtises.
Alors, quel est le principe de l'émission ?
Alors, c'est une émission hebdomadaire. Désormais, notre antenne, ce qui n'était pas l'habitude de Radio Courtoisie, sera ouverte à un nouveau Libre Journal à 21h30, pendant 2 heures jusqu'à 23h30. C'est un peu tardif. J'espère que nos auditeurs seront assez patients pour rester à l'écoute aussi tard. Je serai assisté de Hervé Couteau-Bégari, que vous connaissez sans doute, et de Gilles Brochard, enfin plusieurs de nos...
C'est au second couteau, alors, si je comprends.
Le second couteau, nous n'avons pas de lien de parenté, mais nous sommes très amis depuis une trentaine d'années. Il y a des amitiés durables, même plus. Ainsi que de Gilles Brochard, que nos auditeurs connaissent, car il a une chronique littéraire dans l'émission de Philippe de Saint-Robert. Et j'aimerais placer cette émission...
Alors, c'est encore la mafia gaulliste, là.
Pas tellement, non, justement pas, Serge, pas du tout. Justement pas à l'aune de la politique, car la France, comme vous le savez, a de moins en moins de politique. Et nous parlons de plus en plus, hélas, pour ne rien dire, quand nous parlons politique dans un pays qui perd sa souveraineté, je dois dire que les marges de manœuvre sont devenues si étroites que nous parlons beaucoup dans le vide. Je voudrais plutôt placer ces émissions à l'aune de la civilisation, je dirais de la civilisation française, c'est-à-dire de la langue, mais aussi de l'art de vivre, mais aussi de tout ce qui fait une civilisation, et une civilisation incomparable, puisque nous avons hérité d'une des plus grandes civilisations du monde, et je crois qu'il serait vain de nous concentrer sur les aspects politiques tant que nous n'avons pas assuré les bases, et Dieu sait qu'elles sont menacées aujourd'hui, de ce que je persiste à appeler la civilisation française, et tout à l'heure, nous allons parler de la politesse française avec Frédéric Rouvillois, de l'art de la table à la française.
Ça, c'est de l'archéologie, là.
Avec, c'est pas de l'archéologie du tout. Frédéric Rouvillois en administrera la preuve, je pense. D'ailleurs, il y a un regain du goût de nos contemporains, peut-être parce qu'il est menacé, pour le savoir-vivre à la française. Anthony Rollet nous parlera de la cuisine, et puis cuisine française, et nous verrons si ces aspects fondamentaux, on pourrait dire, de la civilisation française sont menacés par le grand sujet que vous traitez si souvent, car c'est peut-être le sujet numéro un, le principal sujet de préoccupation des Français, le principal problème de la France, c'est l'immigration. Puisque j'inviterai Maxime Tandonnet, qui est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui a publié un livre bouleversant, je dois dire, quand on l'a fini, on est littéralement affolé, sur les vrais chiffres et la véritable réalité de l'immigration. Alors c'est une émission à contraste, n'est-ce pas ? Nous parlons d'art de vivre, de politesse, mais aussi de ce qui peut menacer les fondements de notre civilisation, c'est-à-dire une immigration absolument incontrôlée.
Et donc la durée, vous nous avez dit, c'est de 9h30 à 11h30, c'est ça ?
C'est toutes les semaines, tous les mercredis.
À minuit.
De 9h30 à 23h30.
Non, c'est ça, 2h.
De 21h30 à 23h30. Il y aura entre nous une respiration à la fin de votre émission. Je crois que vous cédez le micro à Bernard Anthony tout à l'heure.
Oui.
Mais après votre libre journal qui s'achève à 21h, il y aura une respiration musicale, comme on dit, d'une demi-heure. Mmh. Et à 21h30, je prends l'antenne jusqu'à 23h30. Voilà.
Alors, Goffman dit que votre émission sera intitulée Le couteau entre les dents. C'est pas vrai, ça?
Les couteaux entre les dents.
Oui, les couteaux.
Non, écoutez, étant donné l'heure tardive, je pense que l'humeur sera peut-être plus intime ou intimiste, mais ça n'empêchera pas évidemment de dire des choses aussi désagréables que possible pour nos éternels ennemis de la pensée unique ou de la pensée zéro. Je ne sais pas comment il faut dire.
Oui. C'est la même chose.
Je n'inviterai que de bons Français, comme disait le père Joseph, c'est-à-dire des personnages de différents horizons, qu'ils soient artistiques, culturels, littéraires, mais aussi politiques, pourquoi pas, qui croient encore à la pérennité de la France et, je répète, de la civilisation française.
Bah écoutez, on va écouter ça. Je vous souhaite pas bonne chance parce que ça ne se fait pas. Je ne vous dis pas non plus ce qu'on dit généralement parce qu'on est sur Radio Courtoisie.
Bien
donc, je ne peux pas dire une chose pareille, mais enfin, je suis certain que ça va inaugurer une longue série d'émissions.
Bon, et tout le monde connaît votre courtoisie, Serge Becquet.
Oui, c'est effectivement.
Et je dois dire que je suis très sensible au fait que vous ayez accepté que j'intervienne en incrustation dans votre émission. Merci beaucoup de ce beau geste.
Ah non, mais ça me fait très plaisir de vous parler parce que comme on dit, et vraiment c'est sincère, j'aime beaucoup ce que vous faites. On n'est pas d'accord sur tout, mais la façon dont vous faites ce que vous faites, c'est très très bien. Et je pense que l'émission sera intéressante et plus qu'intéressante. Et j'espère qu'elle ouvrira pour les autres soirées d'autres émissions. Ça, c'est à la direction de cette station d'en décider, suivant le principe du Führer Prinzip, ce bon vieux Führer Prinzip. Le principe d'autorité. Moi, je souhaite qu'il y ait d'autres émissions comme ça du soir, d'autres émissions club, on peut dire, peut-être.
Voilà, club. Il faut développer Radio Courtoisie, c'est un devoir impérieux. Nous sommes seuls contre tous, et pour cela, il faut utiliser notre antenne autant que possible pour faire vivre nos idées, dont je prétends que, malgré nos différences, comme vous venez de dire, elles sont à peu près communes à 95%, vous savez.
Eh bien, écoutez, on vous écoutera avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Alors,
merci,
ça, il faut
Serge.
Qu'on lise un message. Non, c'est pas un message pour vous. Voilà. Non, c'est pas un message pour vous. C'est Victoria qui s'amuse à me tromper en me jetant des petits papiers.
Mais les auditeurs pourront, malgré leur tardive, les auditeurs pourront poser des questions.
Ils pourront poser des questions. Il y aura une permanence téléphonique.
Il y a des bénévoles.
Très bien. Eh bien, écoutez, bon courage. Alors,
merci
et à
encore,
tout à l'heure.
Je suis ravi de vous succéder au micro, mon cher Serge.
C'est gentil.
À bientôt. Bonsoir.
Serge de Becquet, moi j'ai un message pour notre ami Couteau, puisqu'il annonçait tout à l'heure qu'il allait traiter de l'art de la table. Je veux signaler aux auditeurs que notre divin marquis Jean-Paul Chérigues de Olmeta donnera une conférence intitulée « La table, un art indispensable », déjeuner-conférence même. Le 11 février, c'est complet. Deuxième date, dimanche 25 mars 2007. Ça se passe à l'hôtel Westminster, qui est une rue de la Paix, une très belle adresse à Paris, et il faut se préparer à payer 125 €. Évidemment, ça n'est pas réservé à tout le monde, comme dit l'autre. 01, le téléphone, alors j'espère que vous avez déjà le crayon en main, 01 53 02 02 90. Je laisserai une photocopie à notre ami Couteau. Pendant que on est dans les brèves, j'enchaîne. J'ai cité plusieurs fois, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le sommaire complet. J'ai cité plusieurs fois le Libre Journal numéro 396 qui est sorti des presses aujourd'hui même. Donc je ne recommence pas à faire état de son sommaire extrêmement riche. Ceux qui ont que ça a intéressé, ses allusions, note d'abord qu'il nous feuillette, il feuillette gratuitement notre collection sur le site internet d'amis du Libre Journal qui s'appelle francecourtoise.info. S'ils veulent ce numéro en particulier, donc 396, ils envoient 5 € ou un carnet de timbres. S'ils veulent s'abonner pour un an, ils envoient 110 € à l'ordre de SDB, 4 place France List, 75 010, Paris.
Merci mon cher Patrick, vous avez été brillant comme d'habitude. J'aime beaucoup la une du numéro 1, elle est jolie. Hein,
elle est très mignonne. On envoie nos voeux à nos lecteurs, aux nouveaux et aux anciens abonnés, vraiment de façon délicieuse. Mais on n'en dit pas plus, on laisse la primeur aux abonnés, nouveaux, anciens.
Alors, chers auditeurs, oui. Ils voudraient revenir un peu en arrière. Mmh. On vous dit challenge est un mot français depuis plus d'un siècle.
Mais bien sûr,
après
mais
avoir été anglicisé, on l'écrivait autrefois avec un seul L. Ce sont les Anglais qui lui ont ajouté ce second L. Bon. 14 degrés à Paris, 2 degrés en Arabie, c'est normal, la France devient un pays arabe.
Je n'y suis pour rien, hein. Je précise que là, je récuse absolument toute imputation.
Un auditeur, je sors du cinéma où j'ai été voir Apocalypto, c'est excellent, et tout ce qui a été dit par la critique est un tissu de mensonges.
Il a bien raison. Je crois qu'il a simplement ouvert ses yeux et ses oreilles. C'est ça le plus important, toujours.
Mais ça va être comme La Passion. Les gens vont voter avec leurs pieds et aller voir par eux-mêmes.
Je dirais que La Passion, franchement, je n'avais rien vu, j'avais rien entendu. J'ai vu la scène de la flagellation. J'aime bien le film, mais j'ai trouvé la scène très difficile, très dure.
Je ne suis pas allé le voir
à cause de ça. Je la trouve très dure. Alors que dans Apocalypto, je cherche. Il y a de la violence, mais Serge, 10 fois moins que dans n'importe quelle série qu'on voit à la télé le soir. Et là, encore une fois, cette violence est justifiée par les mœurs et par le scénario. Il n'y a pas de violence gratuite.
Dans La Passion, c'était pas du tout gratuit. La scène de la flagellation, elle n'est pas gratuite. Parce que
elle n'est pas gratuite, elle est dure, simplement.
On vit dans un monde maintenant qui est un monde de mensonges permanents où on va nous expliquer que finalement, le Christ est une espèce de baba cool qui était vachement sympa, un copain et tout. Et que bon, il a eu quelques emmerdements avec la police, mais enfin, non, c'est pas vrai, c'est une passion.
Mais Serge, vous avez raison, mais c'était très difficile à regarder. Il n'y a pas de scène analogue dans Apocalypto.
Je crois que je l'ai déjà raconté. Quand on est allé voir avec ma femme ce film, on est entré dans une salle, comme toutes les salles de cinéma, avec des jeunes qui sont venus. D'ailleurs, beaucoup de jeunes musulmans, enfin musulmans, je ne sais pas, jeunes arabes en tout cas. Ça, c'était assez inattendu, et qui sont arrivés avec les gros paquets de pop-corn qu'ils achetaient à l'entrée du Cinoche. Et puis, à la fin du film,
on n'avait pas mangé le pop-corn.
Les paquets de pop-corn étaient restés posés par terre. Personne n'y avait touché, mais c'est vrai. Hein. Mm-hmm. Et les gens sont restés.
Il y avait du cochon dedans.
Les gens sont restés au moins deux ou trois, peut-être deux minutes, totalement pétrifiés sur leur fauteuil. Oui. Dans un silence incroyable.
Et on en prend plein la figure, faut
dire. C'est un film d'une force inimaginable.
Nous sommes bien d'accord.
C'est cette scène qui...
Elle est très forte, mais elle est dure. Je dis simplement que dans Apocalypto, vous n'avez pas de scène équivalente. Il n'y a pas de scène aussi... Non, pas aussi forte. Non.
Il paraît, j'ai entendu ça chez Ruquier hier.
Vous l'avez vu ou pas?
Non, j'ai entendu chez Ruquier hier. Il paraît qu'on éventre, qu'on ouvre à quelqu'un en gros plan pour lui sortir le cœur.
Il a le cœur dans le ventre.
On le met... Mais bon, ça fait partie, effectivement. Il y a un sacrifice humain. C'était le cas. Et la scène est tournée exactement, mais très exactement. Vraiment pas une erreur. Mais justement, une insiste pas. C'était certainement, parce que on ne voit pas toute la scène, hein. Et c'était certainement beaucoup plus difficile. Et je vous signale, par exemple, qu'il a fait une ellipse énorme. Et même, à mon avis, là, on pourrait le taxer d'incertitude, d'inexactitude. Normalement, après le sacrifice humain, le corps était coupé en morceaux et il y avait une scène de cannibalisme rituel. Eh bien, ça, il ne l'a pas donné. Donc, il a été très en deçà de la réalité. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de scène. Non seulement il n'y a pas de scène gratuite de violence, mais il a fait des ellipses.
Alors, hein, souligner que cette attaque vient de chez Ruquier, qui est un adepte d'une sexualité différente et qui roule pour Ségolène, c'est notoire. Alors que le Parisien libéré, dont on sait que l'équipe...
Mais il n'est pas libéré, il n'est plus libéré.
Mais bon, on sait que l'équipe est majoritairement de gauche. D'ailleurs, c'est même le cas au Figaro. Hein. Il y a plus de journaux de gauche. Ils terminent leur papier en disant, ils méritent tout juste son introduction au moins de 12 ans.
Non, mais nous n'avons pas besoin d'ailleurs de la caution d'aujourd'hui, d'autres journaux l'ont remarqué, et la violence que les Américains ou que le monde au début reprochait à Gibson est totalement fausse, elle n'existe pas. Il n'y a pas de violence. Il y a, bien sûr, quand on se bat dans la jungle, les premiers combats sont pas faciles, hein, ils prennent des coups, ils saignent, tout ça est vrai. Et on peut pas dire que ce soit un film non sans violence. Il n'y a pas de violence exagérée, il n'y a pas de violence qui ne corresponde pas au scénario et qui ne corresponde pas juste aux mœurs de l'époque. Je dirais même qu'il y a des ellipses. Par exemple, on ne voit absolument aucune scène de cannibalisme, or elles étaient rituelles. Donc il nous a épargné ça, justement, probablement parce que ça aurait fait un peu lourdingue. Voilà.
Manque de protéines.
Mais vous savez que Serge, cette thèse a été défendue. Ah, évidemment, elle est fausse. Vous savez pourquoi ? Parce que pour pouvoir manger l'adversaire, il faut être vainqueur. Donc il faut appartenir à une armée riche et puissante. Donc c'est au contraire les plus riches et les plus puissants, ceux qui manquaient le moins de protéines, qui mangeaient le plus les ennemis.
Voilà. Mais non plus, hier, chez Ruquier, ils avaient tous envie de voir le film. Ils ont bien dissocié le film. Bravo, extra, excellent. Mais Mel Gibson.
Puis il y a autre chose. Je crois que Patrick a dit quelque chose de très juste sur la sexualité. Moi, j'ai vu la critique de Libération, alors que les pré-papiers étaient contre. La critique est pour. Pourquoi ? Parce que certainement, le jeune homme
est allé voir le film
d'abord. Et puis en plus,
il y a
beaucoup de bourguerriers nus qui courent dans la jungle. Alors ça peut-être changer sa façon de voir les choses.
Où va la critique si on va?
Alors, une auditrice demande, cela vaut-il la peine d'acheter le hors-série du Figaro sur les Mayas? Attendez, laissez-moi continuer. Qu'en pense Serge de Becquet?
Moi, je pense qu'il est magnifique.
Voilà. Il est magnifique, donc ça vaut la peine de l'acheter. Ah, et ce qui vaut la peine aussi, c'est surtout d'acheter le livre de Martin Pelletier.
Oui, plusieurs, parce qu'il faut...
Les Mayas au risque de l'histoire, je rappelle le titre, Les Mayas au risque de l'histoire, Apocalypto, mythe, mystère, polémique.
C'est l'éditeur.
C'est édité par Renaissance catholique et ça coûte 15 euros.
C'est pas cher pour un livre de chez nous.
Ce qu'il faut faire.
D'autant qu'il y a 200 pages.
Et puis il est beau, il est bien fait. Hein, donc on l'a fait exprès pas cher pour qu'on puisse le donner.
Figaro hors série, parce qu'il y a des illustrations extraordinaires. Vraiment, c'est un numéro magnifique. Et de montrer ça aux enfants, et enfin aux jeunes gens, ceux qui savent lire, bien entendu. Les 2 ou 3% qui savent lire, et quand ils ont fini de regarder les belles images, leur dire, mais il y a un bouquin formidable qui explique ça bien, c'est le bouquin Les Mayas.
Alors, ceux qui ne peuvent pas aller le chercher à la librairie du Petit Pont, ils le commandent, je suis en train de chercher derrière, il y a sûrement un bon de commande.
À Renaissance catholique.
C'est tout à fait à la fin. Donc, 15 euros, je suppose qu'il y a un. Alors, envoyez votre commande accompagnée du règlement.
18 euros au fond.
Voilà, 18 euros au lieu de 15, hein, donc port compris cette fois. Alors, l'adresse, c'est Renaissance catholique publication, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux.
Répétons l'adresse.
Oui, donc 18, on répète tout. Le bouquin de Pelletier, Les Mayas au risque de l'histoire, 18 euros port compris à Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux.
88 rue Pierre Brossolette, 89?
Oui, camarade.
89.
Je sais pas où t'habites. Ah non, je vous vois ici, pardon.
Un verre de chez Moulino.
Donc c'est 15 euros si on l'achète à la librairie.
Et 18
euros
franco.
Si on le demande franco.
Ouais. Alors bon, moi je voudrais lire quand même un message que Victoria se refuse à lire, alors je le fais.
Mais non, j'ai dit que j'allais le lire, tenez-le-moi.
Ah bon, laissez-la parler.
Voilà. Non, allez-y, lisez ça parce que franco.
Cette émission, comme toutes les autres, est un régal d'intelligence, de subtilité. C'est du nectar. Ça nous vivifie. Hélas, il y a quelques auditeurs qui ne comprennent pas les deuxièmes et troisièmes degrés.
Ah, bah, je regrette pas d'être venu.
Voilà. C'est quand même plus agréable.
On n'est pas là pour se faire engueuler.
Alors, effectivement, une auditrice nous fait remarquer que la critique qui a trouvé géniale les bienveillantes, dont chaque page égrène des horreurs qui surpassent et de loin celles du film Apocalypto, est choquée par...
Serge, je peux livrer une réflexion. Moi, je veux bien tout ça, ça m'amuse beaucoup, mais je trouve que d'un seul coup, à travers tout ça, un bouquin, un film, on fait bien grand cas des critiques dont tout le monde se fout, mine de rien.
C'est vrai.
Alors, je trouve que c'est un petit
mais là,
peu
c'est pas
leur faire trop d'honneur.
Bah oui, preuve, les gens font le contraire de ce qu'ils disent.
Il ne s'agit pas de la critique, il s'agit d'une entreprise de démolition. Elle ne réussit pas.
Mais
c'est une entreprise politique. Non, mais elle passe par les critiques, elle passe par...
Non, les critiques, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien.
Ça n'a jamais d'intérêt, sauf que c'est là pour véhiculer un...
Mais ça ne marche pas.
Ah, pardon. Ah, pardon, ça
qu'est-ce
marche.
Qu'est-ce qu'ils ont coulé? Qu'est-ce qu'ils ont démoli?
Ah, mais non. Citer d'abord, on ne connaît pas encore les résultats.
Ça, je parle de la critique en général. Non, j'ai 30 ans de Société des auteurs derrière moi. Au théâtre, tous les soirs, j'ai vu toutes les critiques. Ça n'a jamais fait venir du monde et ça n'a jamais chassé.
Mais c'est pas non plus du tout, c'est pas du tout son but. Là, ce qui se passe, ils sont pas en train de dire, il faut voir, c'est pas du tout le problème. Ils sont en train de répandre, d'essayer de répandre une idée dans le public pour tuer Mel Gibson à terme. Deuxièmement, pour promouvoir une certaine
idée historique.
Mais c'est tout ensemble.
Je suis bien d'accord, mais ne vous faites grand cas des critiques qui n'ont pas grand intérêt.
Mais c'est pas comme ça se passe dans le point. Par exemple, il y a une critique avec une interview de la même façon. Mais c'est l'ensemble, bien sûr.
Il y a une action concertée.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, c'est pas un complot, c'est une conjuration.
Une marque critique de bouquin dans le Libre Journal. Je suis sûr qu'il n'y a pas une personne qui lit un bouquin quand je fais une critique gentille ou méchante. Je veux dire,
notamment sur Radio Courtoisie, les gens passent ici, les éditeurs sont très contents.
Non, mais c'est à Radio Courtoisie. Dites-moi le nom du critique, critique cinéma du Monde, par exemple.
Mais non, mais la question est vraiment
pas celle-là.
C'était le Monde d'abord.
Pour Ardèle Pêche, peut-être. Non, mais c'est pas. Non, on n'est pas en train de faire grand cas des critiques. Mais non, c'est pas la question qui se pose. La question qui se pose, c'est de savoir et de constater qu'il y a une entreprise politique contre Mel Gibson. Voilà. Mais ils en font partie.
Il nous reste 5 minutes.
Non seulement. Alors là, c'est un scandale. Non seulement Victoria ne lit pas les messages, mais en plus, elle ne fait pas respecter la règle du cochon. En effet, 1 euro pour tout mot anglais. Et je viens d'entendre. On n'a pas fait verser d'argent, et pourtant je viens d'entendre Mel Gibson au lieu de courriel Gibson des 10 ans.
Pas mal. Très joli.
Nos auditeurs ont du talent.
Oui.
Et puis on vous pose une question, je ne sais pas si vous avez le temps parce que c'est un vaste programme. Que pensez-vous de ce projet de modification de la Constitution en fin de mandat du président de la République? Où il va. Moi, j'ai entendu l'autre jour, justement, j'aurais voulu que vous m'expliquiez que le président, on allait faire quelque chose, une modification.
Je ne peux pas vous expliquer, je n'y comprends absolument rien.
Où
je
le président, il allait avoir un statut spécial.
C'est absolument impossible.
C'est pas dans la Constitution.
Les anciens présidents, non, mais c'est pour pas... le mettre dans la Constitution.
Non. C'est impossible d'organiser un congrès d'ici les élections. C'est absolument impossible.
Et c'est pas pour ça, de toute façon.
Et de toute façon, la Constitution. Ils peuvent la changer autant qu'ils veulent, étant donné qu'ils ne la respectent pas. Je comprends même pas qu'ils... Voilà. Le secret du scrutin est bafoué, entre autres. Non, mais il n'y a pas... Je ne sais même pas ce qu'il veut exactement.
Il va se représenter, allez.
Et il n'ira pas en prison, bien entendu.
Dites-moi, j'ai deux petites annonces, là. Alors, annonce pour tout... Pour tous les
patrons. Laissez-la parler.
Pour tous les patrons d'émission. La cassette avec l'enregistrement de la messe dite pour Jean Ferré le 4 novembre 2006 par M. l'abbé Laurence à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay se trouve à la procure de cette église, 23 rue des Bernardins, Paris 5e, métro Maubert Mutualité, prix 7 euros. Bon. Alors... Le Centre Saint-Paul annonce la conférence de Philippe Bornet sur le thème « Projet religieux de Napoléon » le mardi 16 janvier à 20h, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e. Ils disent métro Bourse, mais moi j'aime mieux le métro Pelletier. D'ailleurs, à propos de Pelletier, vendredi prochain, 12 janvier, de 15h à 18h30, je rappelle donc que Martin Pelletier dédicacera Apocalypto à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont.
C'est pas Apocalypto, c'est les Mayas au risque de l'histoire.
C'est écrit Apocalypto.
Dédicacé, pas Pelletier, quand même.
Ça dépend, oui. Enfin, bon. C'est tout pour le moment. Ah non, j'avais quelque chose de rigolo. Tiens, je vais le lire. À propos de l'élection, justement. Le site internet voter2007.com, depuis plusieurs mois, organise chaque semaine une élection présidentielle virtuelle. Résultat du premier tour le jeudi soir, résultat du deuxième tour le dimanche soir. Il est intéressant de constater que ces résultats n'ont rien à voir avec les sondages officiels. Jean-Marie Le Pen est arrivé souvent à passer le premier tour et même Il a été élu deux fois au second. Deux dernières semaines, il a dépassé 20 et 21% des votes, talonnant Sarko et Sego, qui font environ respectivement 24 et 22.
M'en fous, j'ai mon passeport.
Merci pour vos émissions qui nous enchantent toujours.
Le Pen fait toujours un carton sur Internet incroyable.
Je voudrais dire aux auditeurs qu'il faut absolument lire le Libre Journal. Je vais dire pourquoi. Celui, le numéro qui vient de sortir.
396.
Il y a un papier de Brignot, 23e papier de son journal de campagne électorale, qui est absolument éblouissant. Il est drôle, et quand même, c'est un sacré bonhomme, hein, Pierre Brignot, parce que un perdreau de l'année. Hein.
Ben, il a fait le bonheur de Minute dans les années 60-70, voilà. Quand Minute était à 300 000 exemplaires. Il y était pour quelque chose.
C'est mon bonheur de jeune homme.
Il a une plume. Alors, il y a des portraits.
Ah oui,
il parle d'Aliomarie. Toujours sanglé dans un complet de pièces modèle, le soldat laboureur restauré Chanel, parfait pour la silhouette que le téléspectateur retient dans la rétine en se disant « En voilà une qu'il doit avoir dans le pantalon ». Michel Alliomarie, le geste court, la parole brève, veille au salut de la République, l'œil rivé sur la ligne bleue des Vosges qui passe désormais entre le Liban agressé et Israël agresseur. Sa vocation militaire est pourtant assez récente, elle date de Raffarin. Avant, elle avait fait tout d'abord, des sérieuses études de droit. Elle a été constitutionnaliste chez les Kivus du Congo.
Le Libre Journal, numéro 396, 5 euros, à l'ordre de SDB, 4 place Franklis, 75-010 Paris.
Merci de votre patience. Nous ne nous verrons pas la semaine prochaine. Je vais maintenant céder le micro à Bernard Anthony.
Oui. Le centre Saint-Paul est au métro Sentier, bien sûr, et non pas Pelletier, comme je l'ai dit.
N'importe. Quoi que c'est dans le quartier des Pelletiers. Hein. Mais enfin. Oui. Voilà, donc à dans 15 jours, si vous le voulez bien. D'ici là, vous avez le temps de lire le livre de Martin Pelletier, Les Mayas au risque de l'histoire, Apocalypto, mythe, mystère et polémique. Et vous pouvez même aller voir le film si vous aimez aller au cinéma.
Agada.
Que Dieu nous garde.
De passer la soirée à notre compagnie sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle notre nouveau rendez-vous tout à l'heure à 21h30, le Libre Journal de la Nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau, à 21h30 en direct jusqu'à 23h30. Soyez avec nous pour découvrir ce nouveau rendez-vous. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Nous sommes un petit peu en retard, pardon, vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Le vos
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 11 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Bernard Anthony au micro, je prends le relais de Serge de Bekech, que je remercie comme d'ordinaire. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Et d'abord, mes voeux de très bonne, très sainte année, je vous les adresse vraiment d'une manière fervente, parce que je sais que vous constituez par l'écoute de cette radio, l'adhésion à cette radio, comme un fer de lance de la résistance nationale française. Et je sais donc le rôle que vous jouez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à travers toute votre diversité, pour la reconstruction de ce pays qui est le point qui nous unit tous, au-delà de nos différences, quelquefois de nos divergences. Mais enfin, vous le savez, ici à cette émission, comme nous le voulons avec Serge de Bekech, cette émission de la réplique, c'est aussi l'émission de l'amitié française. Et pour cela, ce soir, je vais vous présenter un invité exceptionnel, mais j'ai d'abord les regrets de ne pas avoir, une fois n'est pas coutume, nos, comment dirais-je, commentatrices habituelles. Jeanne Smith n'est pas très bien, je vous rassure, ça ne semble pas très grave, mais il y a des saletés, comme on dit, qui courent un peu en ce moment. Alors, on lui souhaite vraiment de se remettre très vite, parce que nous avons bien besoin d'elle, d'ailleurs pour demain, où il y a l'Assemblée Générale de la GRIF, son conseil d'administration, et Jeanne Smith y joue un rôle. Et puis nous avons Cécile Montmirail, mais qui a des temps mission, et elle n'est pas à Paris. Alors ça, donc ce n'est pas grave du tout, mais exceptionnellement, aussi elle a dû nous quitter. Mais en revanche, nous avons, vous les connaissez bien déjà, David Fonté, qui est donc un des maintenant permanents de cette émission de la réplique. David Fonté, c'est Vox Gallier, c'est aussi Reconquête, et nous avons, comme bien souvent désormais, Daniel Amand, qui est un universitaire, avec cet immense avantage, nous l'admirons, d'être à la fois un professeur de mathématiques et un philosophe. Il me dit d'y aller mollo, mais je présente les gens tels qu'ils sont. Mais ça ne nous empêchera pas de le contredire le cas échéant. Nous ne sommes pas impressionnés, Daniel, pardon, je m'adresse là, donc à Daniel Amand. Alors ce soir, Nous avons avec nous Jean Madiran. Les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent bien. Jean Madiran, pour la plupart, c'est présent. Et j'ai avec Jean Madiran donc beaucoup de souvenirs lorsque Présent Quotidien a été fondé. Mais beaucoup d'auditeurs probablement ne connaissent pas une grande partie de l'œuvre de Jean Madiran. Ils connaissent, et c'est à mieux, Présent aujourd'hui et depuis longtemps. Mais avant le Jean Madiran de Présent, il y avait le Jean Madiran d'une grande revue. D'une revue qui mérite d'être encore consultée, travaillée, étudiée, qui est, je pense, la principale revue mémoire de l'intelligence catholique et française. C'est une revue à laquelle je me réfère très souvent, et je veux dire itinéraire. Lorsque j'ai connu Jean Madiran, il y a, hélas, trop longtemps, mais nous n'avons pas trop vieilli, je crois, ni lui, ni moi, j'espère. Je l'ai connu comme celui qui publiait cette revue fondamentale. Et dans Itinéraire s'exprimaient notamment Henri et André Charlier. Et voilà pourquoi il y a eu un jour un centre Henri et André Charlier, dont Jean Madiran a été le parrain au moment de sa création, dans les années 82. Mais ce qui m'avait amené essentiellement à Jean Madiran, c'était sa connaissance du communisme. Si je devais garder, je possède toute son œuvre, la revue Itinéraire, qu'on peut d'ailleurs venir consulter au Centre Charlier, nous en avons beaucoup d'exemplaires. Si je devais dire un livre essentiel parmi tout ce que Jean Madiran a produit, il en est un qui s'appelle « La vieillesse du monde, essai sur le communisme ». C'est-à-dire un livre dont je regrette d'ailleurs, qui n'ait pas été, je le lui dis quelquefois, réédité, peut-être nouvelle édition, commentée, en tout cas un des livres essentiels que l'on peut lire quand on veut connaître non pas ce que fut sans doute, mais ce qu'est le communisme, dont nous allons parler ce soir. Dont nous allons parler ce soir autour d'un tout petit livre de Jean Madiran, qui n'est pas encore paru, si ? Oui, ça y est.
Oui, il est paru.
Bon, il est paru, il peut être commandé.
Il peut être commandé, parfaitement.
Voilà.
Il peut être commandé à Difra Livre, il peut être commandé directement chez l'éditeur Via Romana, 5 rue du Maréchal Joffre, à Versailles. Il peut être commandé chez un libraire, tout libraire d'ailleurs, à qui on donne le nom de l'auteur, le titre du livre et le nom de l'éditeur. S'il fait son métier, il peut vous le vendre dans les 3 jours.
Voilà. Alors là, c'est une bonne nouvelle. L'éditeur s'appelle Via Romana. Oui. C'est donc un livre de culture latine, mais il est intitulé L'accord de Metz. Ou pourquoi notre mère fut muette. Alors voilà, ça c'est un titre un peu attirant, Jean Madiran. Alors dites-nous tout bonnement, de quoi s'agit-il? Comme on dit chez moi, l'accord de Metz, Tesaco.
Il s'agit de l'accord secret qui a été passé en 1962 entre Rome et Moscou. Je voudrais dire tout de suite que c'est pas du tout un livre conspirationniste. Oui, je crois qu'il y a des conspirations dans le monde et des complots. Mais là, ce livre n'est fait absolument pas, j'ai pas écouté aux portes. J'ai pas volé ou fait voler des documents confidentiels. Je suis pas intervenu de manière particulière. Toute ma documentation, qui est d'ailleurs citée, référencée dans ce livre, est publique. Elle est publique, c'est-à-dire que c'est un accord secret, mais qui a été dévoilé. N'importe qui, depuis très longtemps, aurait pu faire ce livre. Mais comme n'importe qui ne l'a pas fait, je l'ai fait. C'est l'accord qui a été négocié à Metz en 1962 pour obtenir que des représentants de l'Église orthodoxe russe puissent venir au Concile Vatican II comme observateur. De Russie, personne ne pouvait venir sans l'autorisation de l'appareil stalinien. Ça a été négocié à Metz et conclu à Metz entre Monseigneur Nicodème, qui était le numéro 2 de l'Église orthodoxe russe, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir toujours été et d'être un agent communiste. Et d'autre part, le cardinal Tisserand, envoyé spécialement par Jean XXIII pour conclure cet accord, pour obtenir que des prêtres orthodoxes russes soient en présent au concile, prêtres orthodoxes russes qui étaient naturellement choisis par le KGB et qui pouvaient être considérés comme des collaborateurs ou des agents soviétiques. Pour obtenir donc cette présence, l'engagement de Rome, ça a été de ne plus attaquer le communisme soviétique. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique, même si on ne l'a pas su sur le moment, c'est ce qui explique le scandale qui a eu lieu au Concile à propos de l'encyclique, de la constitution pastorale Gaudium et Spes. Cette constitution pastorale avait pour sujet les problèmes de ce temps, les problèmes temporels de ce temps. Elle n'a pas dit un mot du communisme. Malgré la pétition de 400 évêques qui demandaient qu'on rappelle la condamnation du communisme, qu'on en parle, parce que parmi les problèmes de ce temps, c'était encore à ce moment-là, comme aussi aujourd'hui, mais de manière encore plus visible, l'un des plus grands problèmes de ce temps, cet impérialisme soviétique qui avait sous sa botte la moitié de l'Europe chrétienne et qui travaillait dans le monde entier. Pas un mot, et quant à la demande des 400 évêques, elle n'est même pas venue en discussion parce qu'on l'a oublié dans un tiroir. Et quand ils ont réclamé, eh bien on a dit maintenant que c'était trop tard puisque le débat était terminé sur ce sujet.
Je vous coupe un peu, Jamadirand. Oui. Le personnage de Mgr Nicodème que vous rappelez dans votre livre est tout de même extraordinaire dans son ascension fulgurante. Dites-nous un mot de Nicodème.
Oui, mais très représentatif. Très représentatif parce que à 18 ans, il fait ses vœux monastiques. Il fait ses vœux monastiques parce que dans l'Église orthodoxe russe, on ne peut pas devenir évêque si on n'est pas moine, c'est-à-dire non marié, c'est-à-dire célibataire. Il fait ses vœux de cette manière déjà significative, c'est qu'il n'a pas fait son service militaire et que la légalité soviétique ne permettait pas de tolérer les vœux monastiques, mais seulement après avoir fait le service militaire. Il y a donc d'emblée une protection et une particulière attention des autorités soviétiques à l'égard de ce Nicodème. Il aura après d'ailleurs une carrière fulgurante. Une carrière fulgurante jusqu'à... Alors, il suit naturellement...
Je lis dans votre livre, 18 ans les vœux, 20 ans ordonné prêtre, 21 ans le doyen supérieur de l'église d'Utzlich, alors qu'il n'a pas terminé ses études, dites-vous. Oui. Ensuite, il fait par correspondance l'Académie théologie de Leningrad. À 25 ans, il est supérieur de la cathédrale de Yaroslav. À 26 ans, chef de la mission en Terre Sainte. Là, il va peut-être aller apprendre un certain nombre de choses. Et à 30 ans, à Moscou, chef de la chancellerie patriarcale. À 31 ans, enfin, le voici évêque et chef des relations extérieures du patriarcat.
Et pour compléter le portrait, c'est une des personnalités de l'église orthodoxe russe qui est autorisée ou qui est même mandatée pour aller hors de l'URSS, ce qui est aussi un phénomène d'époque extrêmement important.
Autorisation exceptionnelle à l'époque.
Comment ?
Autorisation exceptionnelle.
Ah, mais il en a eu, pour Nicodème, c'est pas exceptionnel. C'est lui le représentant, le porte-parole de l'église orthodoxe russe auprès du conseil œcuménique des églises et il voyage, il a des contacts naturellement très religieux avec le monde, ce qu'on appelait alors le monde libre.
Est-ce que les gens de son entourage ont la même proximité que lui avec l'appareil d'État soviétique?
Pardon.
Est-ce que les gens de son entourage, les gens de l'entourage de Nicodème, ont la même proximité que lui avec
Je ne connais pas spécialement son entourage. On n'a pas de, enfin, je ne crois pas qu'on ait de renseignements particuliers sur son entourage.
Alors, est-ce qu'on pourrait venir sur le fond de la négociation?
Eh bien, la négociation, c'est celle-ci. Ouais. C'est que, bien, un accord est conclu entre le cardinal Tisserand et Mgr Nicodème pour que une invitation officielle puisse être présentée au patriarche Alexis de l'Orthodoxe russe. Parce que naturellement, le pape ne voulait pas lancer une invitation qui serait refusée. Il y a donc eu négociation, prise de contact diplomatique pour savoir si oui, si non, etc. Voilà, à quelles conditions. Et il a donc été, c'est l'engagement qui a été pris, de faire le silence sur le communisme. Et qui a été rappelé au père du concile, j'en donne un ou deux exemples, qui sont également publics dans les livres de mémoire de celui-ci ou de celui-là, qui ont fait le cardinal Marty, président de la conférence épiscopale française à l'époque, c'est lui qui a dit que, pour la première fois, au début tout à fait aux évêques français, le Saint-Père tient à ce qu'il n'y ait pas de propos politiques en ce concile, et surtout pas au sujet du communisme. Je cite avec la référence, et au grand désespoir de ceux des évêques catholiques qui avaient pu venir au concile, les évêques de Pologne notamment, parce qu'ils savaient de quoi il était question. Ils savaient que l'Église se désarmait en face du communisme, parce que le silence, vous voyez, le silence, on n'en parle pas, on parle d'autre chose. Bon, c'est un peu embêtant, ça a l'air d'une inadvertance, c'est un peu... Mais c'est que, si l'on ne parle pas du communisme, alors que le communisme parle et agit sans arrêt, alors qu'il organise, disons, grosso modo, de deux points, la contagion idéologique et l'infiltration d'agents, l'infiltration dans l'Église, aussi bien qu'ailleurs, l'infiltration dans l'Église, à ce moment-là, contre cette action à laquelle il n'est pas facile de résister quand on a une vigilance de tous les instants, quand on prévient tout le monde, quand on fait comme Pie XI l'encyclique sur le communisme. Et si on ne le fait plus, on est sans défense. On est sans défense et la pénétration du communisme dans l'Église, sous forme... Je le dis, répète, de contagion idéologique d'une part, et sous forme d'infiltration d'agents d'autre part, les deux choses pouvant aller du même pas quelquefois, est extrêmement étendue et provoque dans l'Église des dégâts intellectuels, politiques et religieux sur lesquels nous sommes encore, qui n'ont pas été réparés.
Alors, on est en pleine actualité, c'est providentiel, enfin en quelque sorte, si je puis dire. J'ignorais quand je vous ai invité que votre livre tomberait à pic dans un sujet qui est traité aujourd'hui, celui donc de la Pologne, donc de ce malheureux cardinal qui aurait collaboré. Il faut prendre tout cela avec.
C'est pas un cardinal, l'archevêque nommé de Varsovie.
Nommé de Varsovie. Mais avant que l'on traite peut-être de son cas, je voudrais rappeler que vous aviez traduit d'une manière importante, très claire, l'encyclique justement de Pie XI, Divini Redemptoris, portant sur le communisme.
Oui, c'est la seule traduction que je l'ai faite, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres, les traductions qu'on avait étaient traduites sur le texte italien. Et le texte officiel des encycliques, c'est le texte latin, et j'ai fait une traduction sur le texte latin, qui, elle ne dit pas le contraire, il n'y a pas de brusque contradiction, mais enfin, il y a des nuances qui me paraissaient importantes.
Alors moi, j'aurais envie de vous demander, et je vais le faire, donc, comment expliquez-vous, après, une encyclique aussi claire? On ne va pas la lire ici, ça sera un peu fastidieux, mais c'est une encyclique d'une grande clarté, vous l'avez commenté d'ailleurs souvent, comment se fait-il que... Au fond, les lignes de défense de l'Église catholique aient été abaissées à ce point.
Parce que personne n'a lu sérieusement l'encyclique Divini Redemptoris. Et je l'ai expliqué d'ailleurs dans la... quelle édition vous avez là?
C'est l'édition... J'ai l'édition des nouvelles éditions.
Oui, non, mais... Parce qu'il y a... Montrez-moi.
Oui, je vous montre.
Ah oui, là, il n'y a que la traduction. Ça a été réédité avec, et c'est à ça que je fais allusion, ça a été réédité avec un avant-propos et une postface du traducteur, c'est-à-dire de moi. C'est très simple. C'est l'histoire de celui qui est pas allé à la messe et qui dit à sa femme, « De quoi a parlé monsieur le curé aujourd'hui ?»« Ah ben, il a parlé du péché. »« Ah oui, qu'est-ce qu'il en a dit ?» Il a dit qu'il était contre. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'encyclique Redemptoris. De quoi elle parle, cette encyclique? Elle parle du communisme, c'est l'encyclique sur le communisme. Et alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle dit qu'elle est contre. Et on s'est imaginé qu'on savait tout, ou plutôt qu'on avait la confirmation, bien sûr que l'Église, elle n'est pas athée, bon, elle n'est pas matérialiste, qu'elle est contre le communisme, et l'Église n'a pas été élue spécialement par des évêques, comme j'ai pu le constater. C'est pour ça qu'elle n'a pas été, elle a été très peu diffusée, très peu étudiée, et c'est pour ça qu'elle n'a pas suffisamment. Il fallait, et puis on se demandait une action spirituelle, temporelle, de pénitence, de prière, de jeûne, et de une action culturelle, une action intellectuelle. Véritablement, c'était un appel à une mobilisation, et il faut reconnaître que cet appel à la mobilisation n'a pas été écouté. Et à cela, il y a une autre explication aussi. C'est qu'en même temps, il a porté sa condamnation du racisme hitlérien. Hein, et que
la grande encyclique mit Brennender Sorge de
non c'est pas une encyclique enfin, c'est parce qu'elle est en allemand et elle était destinée au peuple allemand principalement à l'époque. C'était le peuple allemand, c'est à sa mit Brennender Sorge, oui. Et donc l'attention n'était pas uniquement attirée pour la mobilisation nécessaire contre le communisme. Je lis ça comme d'autres circonstances aussi, que l'époque, peut-être comme il arrive à presque toutes les époques, ne prenez pas très au sérieux les choses sérieuses.
Alors, dans votre livre, et nous sommes dans l'actualité, alors il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je ne les lirai pas en détail, je vais essayer de les interpréter, de les synthétiser, si vous le voulez bien. Donc, on nous pose des questions sur la Pologne. Dans votre livre, que vous avez écrit bien avant que l'affaire polonaise n'éclate, je lis ceci. Le cardinal Glemp voit surtout de... Attendez, je remonte un peu avant, les auditeurs me pardonnent. À tous les prêtres qui ont travaillé en secret pour les communistes, l'Église de Pologne demande solennellement d'avouer leur culpabilité. Le cardinal Glemp y voit surtout de l'espionnage, assurément. Toutefois, écrivez-vous, le recrutement ou l'infiltration d'agents communistes à l'intérieur du Vatican et partout dans l'Église n'avait pas pour but principal de se renseigner sur ce qui s'y passait, mais d'y intervenir. Cela est très important, c'est-à-dire d'intervenir, dites-vous, dans le gouvernement de l'Église par la désinformation, la manipulation, le chantage opérant jusqu'au plus haut niveau, et d'arriver à influencer, orienter, contrôler, votre phrase est longue mais elle est bien structurée, orienter, contrôler l'Église catholique comme il contrôlait l'Église orthodoxe, et par les mêmes moyens, plus lents à mettre en œuvre dans les pays où il n'est pas au pouvoir, mais identique. L'incrustation de noyaux dirigeants à l'intérieur de l'organisme en laissant sa hiérarchie et ses structures apparemment inchangées.
Oui, et ça d'ailleurs là, il y a la formule employée par le cardinal Wyszyński, qui était primat de Pologne, dans la lettre qu'il a envoyée à l'épiscopat français, où il mettait en garde l'épiscopat français sur le fait que c'était une organisation polonaise qui s'appelait PAX, que l'organisation prétendument culturelle et progressiste PAX était en réalité une organisation policière qui travaillait à introduire un noyau dirigeant dans les organes ecclésiastiques et dans l'Église afin de la détruire. C'est la formule qui a été employée, et il est très curieux de voir que cette lettre du cardinal Wyszyński, il faut voir sa date. Elle a été envoyée et reçue par l'intermédiaire de la secrétaire d'État, par les évêques français, sede vacante. C'est-à-dire, alors que Jean XXIII était décédé,
et
que Paul VI n'était pas élu. Mais le cardinal Wyszyński savait certainement, était bien placé pour savoir, qu'il y avait une volonté du Saint-Siège de ne pas se défendre contre le communisme. Sa lettre auprès de l'épiscopat français a été absolument considérée comme n'existant pas, d'autant que le cardinal Wyszyński, dans cette lettre, j'ai lu beaucoup de pages, très très grosses, ça dépend de la naturellement de la typographie, mais il mettait en cause la pénétration des communistes dans les groupes de presse catholique, dans un groupe de presse catholique surtout, il donnait des noms, spécialement un, et l'épiscopat français n'a pas bougé. Quand on a eu la lettre, Et alors là, c'est un cas effectivement, un cas où je m'appuie sur un document qui n'était pas destiné à sa publication. Quand on a eu cette lettre, on l'a publiée. Elle a paru et dans Permanente de Jean Gousset et dans Itinéraire. Et naturellement, l'épiscopat français, en tout cas son noyau dirigeant, son conseil permanent, a fait bloc pour défendre le groupe de presse qui était ainsi attaqué. C'était pas le groupe Bayard, c'était l'autre.
Le groupe des informations catholiques internationales.
Oui.
Hein,
oui.
Donc c'était le mouvement Pax qui avait été mis en place par l'agent communiste polonais Piasecki.
Oui, voyez-vous, ceci est peut-être plus personnel, mais le livre que j'ai fait en 1955, ils ne savent pas ce qu'ils font, était en 1955. On n'est pas en 62 à Cordoue, mais 1955 était sur la non-résistance au communisme dans la presse catholique. Et alors là, l'épiscopat a fait bloc pour défendre sa presse catholique, y compris le groupe en question, malgré ce qu'on peut appeler son extrémisme, voilà. Et ça ne servait à rien, mais la réalité était celle-là. C'était celle d'un effort. Et alors on a vu dans 36 choses dans l'Église, à différentes époques. J'en cite une seule en annexe de mon livre, c'est dans le missel des dimanches.
J'allais y venir.
Le nouveau missel des dimanches, la notice liturgique pour l'anniversaire de la mort de Marx. Et alors je le commente ligne à ligne parce que vous comprenez, c'est Marx était une sorte de savant qui a étudié, oui, voilà, qui était qui avait quelques querelles d'interprétation, simplement une affaire entre philosophes au sujet de Marx, et qui était donc de une autre fois, mais je ne l'ai pas là, enfin, vous savez, dans un, parce que c'est le mystère, il change chaque année ce mystère des dimanches que fait l'épiscopat français. Ça a été la même chose pour Lénine. Et vous pouvez citer d'autres choses, à différentes époques, enfin, y compris dans l'Action catholique ouvrière, des membres du parti communiste, des communistes avérés, qui s'en cachaient pas, qui étaient membres du comité directeur. Alors, quant au top, hein, il y en a pas de temps plus facilement.
Alors, un auditeur nous demande, j'essaie de synthétiser les autres, pourriez-vous nous redire à partir de quel moment l'Union soviétique a envahi les rouages de l'administration vaticane?
Je cite, dans le passage que vous avez cité tout à l'heure, je cite une interview du cardinal Glimp qui est de septembre. De septembre dernier, où il révèle, à ma connaissance, il n'y avait pas eu de révélation publique comme cela, et en outre, elle n'a paru nulle part en France, hein, dans aucun journal, sauf dans présent, que Jean-Paul II était espionné jusque dans son entourage immédiat par des prêtres polonais, et il donne des noms. Alors les prêtres polonais, c'est bien simple, c'est que on voit très bien que quand Jean-Paul II arrive au pontificat, il sait très bien, il est différemment apprécié sur beaucoup de points, mais il y a un point sur lequel je crois il est inattaquable, c'est qu'il connaissait le communisme. Il savait ce que c'était que le communisme. Et il arrive, et il ne sait pas sur qui il peut compter ou ne pas compter au Vatican, il s'entoure de prêtres polonais, c'est plus sûr. C'est plus sûr, mais même là, c'est Glenn qui le dit. Alors, savoir quand cette infiltration a commencé, je ne le sais pas. Comme je me fonde uniquement sur des choses qui sont publiquement vérifiables, sur des témoignages dignes de foi, ou sur des textes parus. L'accord de Metz a été révélé après coup par un journal communiste. La révélation n'a pas fait grand bruit. La croix, quelques jours après, y a fait écho en quelques lignes, en donnant une version un peu plus développée, avec une interview de l'évêque de Saint-Avold et de Metz, qui avait reçu les négociateurs Nicomède et Tisserand, hein, n'a fait, voilà. Bon, et puis c'est passé inaperçu, parce que qui lit, disait Bainville, qui retient ce qu'il lit, et qui comprend ce qu'il lit, et qui retient ce qu'il a compris. Alors, mais quand on voit ça, là on a su, parce que ce sont des choses publiques.
Daniel Amand a une question à vous poser.
Deux questions liées à la précédente. À défaut de savoir quand s'est mis en place très concrètement le processus d'infiltration et de déstabilisation, est-ce que d'une part, on peut percevoir, on connaît l'efficacité des services secrets liés au communisme, enfin soviétique, avec la Tcheka au départ, puis le NKVD, puis le GRU, puis le KGB, qui sont vraiment consubstantiels au régime. À partir de quand est-ce que c'est dès Lénine, dès Staline, que le projet, en quelque sorte, de déstabiliser l'Église catholique apparaît, ou est-ce qu'il est formulé plus tard? Est-ce qu'il est consubstantiel à la prise de pouvoir par les bolcheviks, ou est-ce que c'est à un moment ou à un autre que les dirigeants soviétiques se disent finalement cette Église, elle nous gêne, elle nous encombre? Et la deuxième question, quels sont les pays cibles de ces mouvements de services secrets? Est-ce qu'il y a des pays
question,
dans lesquels...
À la première question, que j'y réponds ensuite pour ne pas l'oublier au profit de la seconde, la première question sur Lénine, je peux répondre deux choses. C'est que, premièrement, Lénine est le théoricien du fait que les catholiques, les chrétiens, il ne faut pas essayer de les convaincre, de les réfuter. Il suffit simplement, tout en respectant leur foi, de les amener à pratiquer la lutte de classe. En pratique, la lutte de classe, le terme est bidon, parce que c'est quelquefois de classe, mais d'autres fois, elle n'a rien à voir avec la classe. C'est la dialectique communiste qui désigne un ennemi, et de pratiquer donc le combat politique en même temps. Et cela les conduira à l'athéisme, disait Lénine, beaucoup mieux que n'importe quel discours théorique. Et sur Lénine, autre chose, c'est Lénine qui a théorisé et mis en œuvre le fait que tout bon communiste doit être un bolcheviste. Le tchéquiste, la Tcheka, comme vous l'avez rappelé, qui est le premier nom des services secrets soviétiques. Alors, si vous rapprochez ces deux choses, vous voyez que le communisme avait, le communisme marxiste, léniniste, et ultérieurement stalinien, mais avait dès le début vocation. Vocation. Et il avait d'autant plus vocation que le seul mode, le communisme emploie tous les modes classiques de tyrannie. Bon. Impérialisme, etc. Bon, c'est ça qui attire des esprits superficiels, fût celui du général de Gaulle, pense que bon, mais l'empire, on voit bien que c'est un empire, comme tous les empires, ce communisme, bien. Il emploie tous les moyens classiques qui ne sont pas les siens, mais il a des moyens propres qui sont spécialement les siens. Et ces moyens, le moyen propre qui est de gouvernement, qui est spécialement celui du communisme, c'est celui du noyau dirigeant, dont on a déjà dit un mot. En URSS, le système du noyau de dirigeants est le système par lequel l'URSS était gouverné. Et ceci était dans un article de la Constitution soviétique, dont il s'est trouvé, excusez-moi, c'est que avant 1955, je parle de la Constitution Staline de 1936, la Constitution la plus démocratique du monde, cet article était à l'époque 160, je crois, parce qu'après il a été changé de numéro, mais il est resté le même dans les remaniements. Cet article disait que toute organisation d'État ou publique, tout ce qui a une existence sociale dans l'URSS, a pour noyau dirigeant le Parti communiste. C'est-à-dire que ça pouvait être les cœurs de l'armée rouge. Les cœurs de l'armée rouge deviennent inconstitutionnels, sinon pas un noyau dirigeant communiste, agréé par le parti, mis en place par le parti.
Et c'est ce que vous appelez le système d'esclavage. Je crois que dans la vieillesse du monde, vous en faites une démonstration que j'ai toujours trouvée éblouissante. Et si je peux la restituer un peu pour vous laisser un peu reposer, je pense que ce que vous décrivez, c'est un État qui est noyauté par le Parti communiste, et ce qui dépend de l'État ou est face à l'État, et notamment les syndicats, 9e et 13e condition d'adhésion à la
3e
internationale, donc noyau dirigeant aussi à des syndicats. Donc le système d'esclavage est très simple. Eh ben, le prolétaire qui croit être défendu par les syndicats face à l'État, eh bien le noyau dirigeant de l'État, c'est le Parti communiste, et le noyau dirigeant des syndicats censé défendre face à l'État, c'est le Parti communiste.
Oui, c'est-à-dire que les syndicats sont dirigés par l'employeur. Les syndicats de salariés sont dirigés par l'employeur. Mais ça, c'est le système qui s'étend à tous les problèmes. Je réponds à votre seconde question qui était sur la cible.
Les cibles, à la fois voulues par Moscou et puis réalisées effectivement. Est-ce que c'est plutôt en Allemagne, en France, en Pologne que l'infiltration était la plus forte?
Je peux vous répondre sur ce qui concerne les pays
esprit sensible en raison de leur catholicisme. Le pays. Lorsque l'Union soviétique, qui a été le grand vainqueur de la guerre de 45 et qui a, il faut peut-être le rappeler, le seul qui en ait fait qui en ait tiré des conquêtes territoriales importantes, y compris la moitié de l'Europe chrétienne. Bien. Dans cette situation, lorsqu'il s'est trouvé avec la Pologne, qui était probablement le pays le plus catholique de ceux qu'il avait vraiment catholique, la stratégie a été de prendre la Pologne pour base de l'infiltration dans les milieux catholiques. Non seulement d'une part parce que la Pologne était très catholique, c'était un réservoir de catholiques, on peut en influencer, etc. Mais deuxièmement, en raison des relations intellectuelles, culturelles très intenses entre la Pologne et la France. Si bien que je crois que l'attaque principale, véritablement, ça a été celle-là. Ça a été, si vous voulez, ce qu'on peut schématiser, naturellement c'est très complexe, en disant que c'est le schéma Moscou, Varsovie, Paris, Rome. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres actions, mais véritablement, la cible principale, je pense que c'est celle-là. C'est celle-là, et c'est d'ailleurs ce que le cardinal Wyszynski, dans sa fameuse lettre, n'est-ce pas, à l'épiscopat français, expliquait très bien. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'affaire Parks, en fait, qui a eu un certain retentissement, parce qu'on avait, on en a parlé, mais sur lequel l'Église de France a fait a bouclé complètement.
Alors, oui. Pour les gens qui n'ont pas vécu dans les années 60, quelle forme pouvaient prendre ces accointances dans l'Église de France? Est-ce que vous avez des exemples comme ça qui vous ont heurté à l'époque de fraternisation avec le communisme? C'est pas vraiment l'expression, mais
c'était le compagnonnage à l'époque. C'était officiellement le terme, voilà. Le compagnonnage de route.
Est-ce que vous avez des souvenirs comme exemple,
vous avez Pierre Limagne, qui a été le chef de la rubrique religieuse de la Croix pendant 10 ans, 15 ans ou davantage, et qui, dans ses souvenirs, dit qu'il a toujours été un compagnon de route du Parti communiste et qui s'en honore. Bien. Vous avez eu l'affaire spécifique des prêtres ouvriers. Des prêtres ouvriers qui étaient une initiative très digne de considération, surtout quand c'était le père Leuf, qui n'était pas du groupe des prêtres ouvriers. Mais parmi eux, il y avait des agents. Et on l'a bien vu, parce qu'après la dissolution par le Saint-Siège des prêtres ouvriers, il y en a eu deux au moins, peut-être trois, que le Parti communiste a ramené chez lui, et qui ont trouvé un poste de permanent à la CGT.
Alors, un auditeur nous pose la question, est-ce qu'il y a eu des agents communistes devenus prêtres, ou bien alors, est-ce que c'était des gens qui se faisaient lessiver le cerveau, si je puis dire, ayant été prêtres, qui étaient dans la praxis, est-ce que vous pouvez éclairer?
Ce que nous savons, d'abord par l'exemple de l'Église orthodoxe russe, c'est que là, nous savons avec certitude que, je prends l'exemple de Nicodème parce que c'est le plus grand, nous savons avec certitude qu'il posait comme ça. Le vraisemblable, c'est qu'il y en a eu probablement très peu de véritables agents recrutés. Mais ce que nous savons de manière certaine, et notamment par le témoignage d'Henri Barbet, qui est un ancien dirigeant de l'International communiste, c'est que dès les années 30 que la consigne était donnée de rechercher parmi les jeunesses communistes les sujets assez doués pour entrer au séminaire, aller si possible jusqu'à l'ordination sacerdotale et continuer. Quant à savoir comme il y en a eu dans l'Église catholique, ça je ne le sais pas, parce que comme je vous l'ai dit, je ne me base que sur des références, des documents publics attestés ou des témoignages dignes de foi
également public. Alors ça, je ne sais pas. Il est vraisemblable qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais enfin, parce que c'est quand même très difficile. Mais je ne pourrais pas mettre la main au feu qu'il n'y en a eu aucun.
Et puis le principe des services secrets, c'est surtout de les, de les placer aux bons endroits. Ce n'est pas qu'il y en ait beaucoup, c'est qu'ils soient dans des endroits,
et très souvent, pas toujours, mais très souvent, dans le cas de l'Église, d'en faire non pas des progressistes, mais plutôt des intégristes. La couverture.
Et bien évidemment.
Et alors, il y a, de même que dans l'ordre politique, tout au long de la, depuis que l'URSS existe, on a toujours vu dans la droite, dans la droite politique, parlementaire, etc., un, deux ou trois hommes politiques qui défendaient les thèses de l'URSS. Ils étaient de droite, bien entendu. Alors, étaient-ils victimes de la contagion idéologique ou du fait qu'ils étaient tenus? Parce qu'il y a aussi l'agent qui est recruté, non pas parce qu'il veut marcher dans l'affaire, mais celui qui doit céder à un chantage.
On a dit la même chose.
De même que les préfets de la République, vous comprenez, ne manquent pas de tenir dans le département leur évêque, avec toutes les affaires un peu embêtantes, un peu sales, qu'il y a eu dans le diocèse et qu'on a étouffé. On sait bien que les préfets de la République font ça. Chaque préfet dans son département a son évêque. Bien. Eh bien, alors vous pensez bien, avec les communistes, c'est avec beaucoup moins de scrupules encore.
On laisse un peu la parole aux auditeurs. Alors il y en a un qui nous dit ceci. Au Congrès national de la JAC, il a raison de le rappeler, la jeunesse agricole catholique, en 1974, l'invité d'honneur était Georges Marchais, le savez-vous? Le saviez-vous? Oui, nous le savions.
Oui, nous savions
parfaitement.
Mais il y a des tas de choses. Alors, les gens ont vu que fois une chose, une autre, en se disant... Oh, quand même, là, il y a quelque chose de mal qui s'est produit, là, il y a une défaillance, voilà. Mais en fait, il y a un désarmement général quand on rapporte les uns des autres tous les faits. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la, aux actions communes. Mais des gens très, très, très graves, des personnes très graves, des jésuites, des pères jésuites de l'action populaire, et je pourrais en tout cas citer le père Villain, sans parler du père Bigot, ont fait la théorie qu'on pouvait mener des actions parallèles au Parti communiste, c'est tout ce qu'ils demandent. Des actions parallèles au Parti communiste, dans la mesure où ils proposent des fins acceptables. Or, nous savons, depuis l'encyclique Divina Actoris, que c'est en ça que le communisme a été déclaré par le pape intrinsèquement pervers. Il est pervers pour beaucoup de raisons, mais il est intrinsèquement pervers par le fait, disait le pape, qui doit savoir ce que je veux dire, ils vont jusqu'à proposer des objectifs en tout point conformes à la doctrine de l'Église. C'est le pape qui dit ça, dans l'encyclique de 1937, Divina Redemptoris. En tout point conforme. Parce que, c'est naturellement, c'est pas pour le réaliser, cet objectif. C'est un piège. C'est pour les entraîner à l'action commune.
Voilà. Alors, des auditeurs me rappellent, à fait raison, je vais le dire, qu'il y a eu des livres excellents de Vladimir Volkov, Le Traître, L'Hôte du Pape. L'Hôte du Pape, c'est merveilleux. Oui, nous avons... Volkov était, hélas, disparu, un très grand écrivain. Et pour cet auditeur, je dois dire que L'Hôte du Pape, c'est le personnage de Nicodème, qui a été à peine romancé.
Oui, c'est tout à fait toute
la... Et puis, trois auditeurs nous parlent du livre de Pierre de Villemarais, notre ami Villemarais, Le KGB au cœur du Vatican. C'est un livre complémentaire, très fouillé aussi. On est là dans des livres, évidemment, que nous citons avec plaisir.
Oui, vous comprenez, il y a un livre, parmi ceux que vous avez cités, il y a un livre où les mêmes sont tombés des bras. Quand l'auteur explique qu'un agent secret qu'il connaît depuis longtemps, qui est un ami, lui révèle... qu'il y a eu un accord à Metz passé entre eux et Moscou, hein, et il donne la date à laquelle il a cette révélation qui le surprend terriblement, alors que ça fait 10 ou 15 ans que ça a apparu en détail dans la revue Itinéraire.
Donc j'ai dit tout à l'heure à la fonction. Alors, moi, j'ai connu Jean Madiran, vous le savez bien.
C'est pour ça que j'insiste sur le fait que moi, je prétends pas avoir des témoignages... en général douteux, d'agent double ou d'agent triple, par définition. C'est ça d'ailleurs, bref parenthèse, la sottise souvent de l'espionnage, c'est de se faire renseigner par des gens qui ne sont pas dignes de foi. Hein. Mais voilà, je m'en tiens, moi, à ce qui est public et vérifiable.
Alors, il y a eu les agents certainement introduits, et puis moi, je vais apporter, puisque c'est le débat tout de même, mon témoignage au dossier. Moi, j'ai pratiqué très jeune la jeunesse étudiante catholique. Il m'a fallu du temps pour théoriser ce que je percevais déjà. J'étais militant politique très jeune, j'étais militant Algérie française, j'étais donc vraiment déjà un peu formé. Mais je voyais bien à la GEC, j'étais en résistance contre ce qu'on appelait le progressisme chrétien, je percevais bien par le biais des méthodes dites de dynamique des groupes, combien on nous manipulait. Et cela, c'est quelque chose d'important, je me permets de le dire pour les auditeurs, parce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Et donc il y a des modes de subversion qui sont peut-être pas suffisamment étudiés dans certains endroits, et je pense même dans certains séminaires. Mais moi, j'ai connu de véritables agents qui étaient devenus agents en cours de route. Et je cite un exemple, je suis le cousin par alliance de l'abbé d'Avezy. L'abbé d'Avezy, c'est un grand nom de la subversion. Hein, il vit toujours, je l'ai souvent traqué. Beaucoup de nos amis parisiens se souviennent de la manifestation que j'avais conduite devant le consulat algérien, où on lui remettait, je ne sais trop quel prix pour ses bons et loyaux services de porteur de valises du FLN. Mais moi, j'ai ce témoignage. La dernière fois que j'ai vu l'abbé d'Avezy, c'est un souvenir d'enfant, donc un peu flou. Il se penche sur moi parce que j'ai une grippe. Je suis dans mon lit et j'ai une dizaine d'années. Et l'abbé d'Avezy est envoyé par l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, Mgr Théas, en Chine, avec la mission de France. Alors lui, ensuite, va faire partie, non pas de l'appareil soviétique, mais de l'appareil chinois. Donc il va rentrer, tant il part. Je ne peux pas juger, j'ai 10 ans, mais mes parents me parlent, bien entendu, de lui. Toujours est-il que tant il va rentrer, alors là, oui, on va savoir très vite, dans la famille, l'abbé, c'est un peu curieux ce qu'il fait. Bon, et là, il est revenu, le cerveau lavé. Il devient un agent de la tricontinentale. Lui, appareil chinois, appareil castriste. Donc là, c'est l'exemple, et j'ai connu comme cela, à la GEC, des aumôniers. Donc, je ne peux pas dire s'ils étaient communistes avant de rentrer au séminaire, mais dont je puis dire qu'ils l'étaient de toute façon dans leur fonction. Alors il faut citer des exemples. Par exemple, en mai 68 à Toulouse, dont je suis un des résistants, je crois le leader de la résistance étudiante, je suis déjà en contact avec des gens qui résistent ailleurs, qui sont toujours mes amis. Hélas, il y en a une qui est partie, qui est Marie-France Tirebois, hein, donc elle résiste à Nanterre. Il y a Bruno Goldisch, il y a Alain Sanders. Nous résistons. Mais à Toulouse, l'un des quartiers généraux de la subversion se passe au couvent des Dominicains. Et là, il y a, non pas un Dominicain, mais un franciscain qui joue un rôle important, qui est le père Raymond. Donc, le père Raymond est un agitateur bolchevique. Voilà. Alors, donc, tout cela, pourquoi le rappeler ? Ben, je crois que, et si vous permettez, j'en adhérant, on passera, puisqu'il y a quelques autres aspects dans cette émission, mais parce que ça n'est pas du passé que vous traitez ce soir. Je crois ce qui est important dans votre livre.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a aussi, ce que je ne dis pas dans mon livre, mais qui est le contexte qu'il faut connaître, mais on ne peut pas tout dire à la fois, c'est que en 1989, l'URSS s'est effondrée. C'est-à-dire que le communisme n'a plus été financé, contrôlé, dirigé par la tête unique du Kremlin, avec tous les moyens d'État que cela suppose. Mais tous ces agents-là, ils n'ont pas été pendus ou fusillés. Ils n'ont même souvent pas été découverts. Ils n'ont pas disparu. Ils se sont reclassés. Ils se sont reclassés d'une manière ou d'une autre en se soutenant les uns les autres pour des raisons de survie. Et il n'est pas exclu du tout qu'aujourd'hui, le malheureux archevêque nommé de Varsovie est victime d'une dénonciation tout d'un coup soudaine. Il n'est pas du tout exclu qu'il soit victime d'une vengeance communiste ou d'une action communiste visant justement à
comment dirais-je, à déconsidérer l'Église. Tout l'ensemble, n'est-ce pas, sa candidature à sa promotion à l'archevêché de Varsovie était soutenue par Mgr Glemp. Elle a été étudiée de près et admise par notre Saint-Père, le pape Benoît XVI. Bonne affaire pour un coup très, 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 très calculé. Alors, cela ne veut pas dire, lui était probablement, il était à un degré ou à un autre, était un agent, c'est vrai. Mais d'autre part, c'est pas la justice immanente qui vient en ce moment se manifester contre lui. C'est qu'il y a certainement une action des survivants très organisés de l'appareil du KGB. D'ailleurs, le premier survivant du KGB, c'est Poutine.
Une question tout de même, pour revenir à l'accord de Metz. Quel était le mandat précis de Tisserand, de Mgr Tisserand? Et finalement, quel est le degré d'information ou de complicité de Jean XXIII dans cette affaire? Parce que Jean XXIII lui-même avait été envoyé en Bulgarie, bon, avant l'occupation soviétique, mais il connaissait bien ce monde. Est-ce que c'est Tisserand qui s'est fait retourner, qui s'est fait flouer, ou est-ce que
non,
dès le
Jean,
départ...
Jean XXIII était un homme pieux, mais il a été, déjà quand il était patriarche de Venise, visiblement il était mal conseillé politiquement. Mal conseillé politiquement par quelqu'un qui était son conseiller. Mais d'autre part, la bonhomie de Jean XXIII est extraordinaire, vous comprenez. Il ouvre le concile en disant, voilà, pour la première fois, nous faisons un concile où il n'y aura aucune influence des pouvoirs temporels. Oui, autrefois, c'était les princes chrétiens qui faisaient des pressions.
Qui étaient les protecteurs du concile.
Ils avaient au moins le fait d'être chrétiens. Et là, aucune, sauf que c'est les soviétiques. Et au témoignage, je cite notamment une lettre écrite à moi, que j'avais publiée à l'époque d'ailleurs, de Mgr Roche, qui était l'assistant et le secrétaire du cardinal Tisserand. C'était la volonté, il a été envoyé par Jean XXIII. Il a été envoyé par Jean XXIII pour faire ce qui a été fait. Et d'ailleurs, cette entrée, alors, simultanément ou conséquence, on ne condamne pas le communisme, mais en même temps on explique qu'on ne portera plus de condamnation. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Suspension du pouvoir magistériel de condamnation.
Voilà. D'ailleurs, ce n'est que justice, dirais-je. Parce que si on a pris engagement depuis qu'on est le communisme, alors on ne condamne plus personne. Ça, il y a une logique là-dedans. Il y a une logique. Alors est-ce que c'est l'un qui entraîne l'autre ou l'autre qui entraîne l'un? Ça, je ne sais pas. Mais enfin, le fait est là. Le fait est là et que les dégâts courent toujours. Court toujours.
Jamais dirant, nous avons quelques autres questions à traiter. Vous oui. pourrez intervenir autant que bon vous semble. En conclusion de cette première partie importante de notre émission, je voulais juste prendre un extrait de votre conclusion de ce livre dont j'ai dit combien il était important, la vieillesse du monde. À la dernière page, contrairement aux apparences de toujours et aux conditionnements d'aujourd'hui, nous croyons que l'effort intellectuel est ce qu'il y a après et avec la sainteté, de plus pratique et éternellement le plus actuel. Alors, voilà, je crois que le livre que vous venez de publier, L'accord de Metz, c'est un livre qui mérite d'être lu, de circuler, d'être travaillé, parce que il n'exige pas, je crois, je le dis, un très grand effort intellectuel, il faut le lire sérieusement, mais il est écrit avec une très grande clarté, et surtout je veux attirer l'attention sur le fait que, portant sur un événement qui a été très déterminant dans la tenue du Concile Vatican II, sur lequel vous auriez pu parler évidemment des heures, c'est aussi quelque chose, un événement qui a engagé l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours, et l'abaissement de ses défenses sur peut-être d'autres points encore, puisqu'il y a une certaine logique à cela, comme vous venez de le dire. Alors, David Fonté, peut-être maintenant à vous pour la suite des questions que vous vouliez me poser, mais moi je vais vous en poser aussi, et puis je vais en poser à Daniel Amand, selon les lois de notre émission.
Je voulais juste vous poser une question d'abord, Bernard. C'est, est-ce que vous ne voyez pas des similitudes avec ce qui s'est produit entre l'Église et le communisme, et ce qui travaille aussi une certaine partie de l'Église, c'est-à-dire des affinités, une certaine proximité avec un islamisme que l'on cultive justement pour au nom de beaux principes, mais qui néanmoins peuvent saper la résistance, l'esprit de résistance chrétien dans notre pays.
Oui, ça rejoint d'ailleurs des questions d'auditeurs. Je crois que nous avons ce soir de très bons auditeurs. Je suis un peu navré qu'on ne puisse pas répondre à tout, mais c'est la loi du genre. Mais par exemple, à deux ou trois reprises, revient la question des, n'y aurait-il pas des accords secrets du même genre avec des évêques français et des représentants de l'islam ? Alors, je ne crois pas. Je vais répondre. Je ne pense pas. Je n'ai pas d'éléments, sauf si vous en avez. Je ne crois pas qu'il y ait des accords secrets avec des représentants de l'islam. Pourquoi d'abord ? Parce qu'il n'y a pas un appareil islamique. Il n'y a pas un KGB islamique. Il n'y a pas un centre de décision islamique. Il n'y a même pas un Vatican islamique. Donc, il peut y avoir tout au plus des conversations de tel évêque avec tel imam. Donc, on sait que, par exemple, en France, il y a des organisations. Mais les organisations, tout en ayant le principe supérieur de l'islam qui est l'Oumma, on sait très bien qu'elles se déchirent aussi, qu'elles sont rivales, pour le moins. Donc on peut peut-être parler avec M. Tariq Ramadan, mais si on parle avec Ramadan, on ne parle pas forcément avec la Fédération nationale des musulmans de France. En revanche, cher David, je crois que il y a effectivement une analogie de comportement. Donc, toute chose inégale par ailleurs, les choses étant très différentes, il y a comme une fascination que Alain Besançon a exprimée, d'ailleurs, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais dans des textes intelligents, une fascination pour la force, quoi. Ça, je crois que ça a pu jouer aussi avec le communisme. C'est un peu tragique, c'est un peu triste, mais au fond, ce désir de passer aux barbares, et l'autre, lorsque je lis les textes d'un certain nombre d'évêques, je ne voudrais pas que mon propos tourne à un propos complètement anti-épiscopal. Je sais qu'il y a de bons évêques, je ne les mets pas tous dans le même sac. On en a quelques-uns aujourd'hui qui quand même nous font apparaître quelques petits coins de ciel bleu. Bon, ils sont rares. Mais enfin, il y a donc effectivement face à l'islam une même soumission. J'ai traité du cas particulier de l'évêque de Vendée parce que son indigence face à Siamsa Boubacar était tout de même stupéfiante. Il m'a écrit d'ailleurs pour me dire que il n'était pas préparé à ce débat. Enfin, je rêve. Lorsqu'on est un évêque de l'Église catholique, on doit avoir un minimum de formation sur l'islam. Et ça revient à Madiran aussi, parce que le drame face au communisme, ça a été quand même le manque de formation. Alors, pour des raisons qu'il a analysées, parce qu'on n'a pas lu Divini Redemptoris, mais peut-être parce que dans les séminaires, il n'y avait pas, au fond, d'école de formation à l'environnement. Là, il y a la tradition est critique, disait Maurras, il faut souvent venir à Maurras, et donc là, il y a quand même une critique de ces séminaires. Eh bien, aujourd'hui, je fais la même critique. Hein. Je me suis aperçu que dans les séminaires que je tournais, les traditionnels, donc avec toute sensibilité confondue, hein, je n'ai pas, vous le savez, nous sommes ici des écuméniques de la résistance catholique, dont nos amis sont indifféremment à la Fraternité Saint-Pie X, Saint-Pierre, à l'Institut du Bon Pasteur, du Christ Roi, et d'autres et bien d'autres et bien d'autres et bien d'autres encore, au Barou, que sais-je encore. Mais moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que dans au moins les deux séminaires des fraternités que j'ai évoqués, et on enseignait assez peu l'islam, quelques heures à peine. Donc, sur plusieurs années d'études, ça me semble léger. De même que je me suis aperçu, alors là, avec un étonnement très grand, je peine à écrire un livre, je ne sais pas s'il sera bon, mais en tout cas, je sais que j'aurai beaucoup travaillé, suite à la réussite de mon livre « L'islam sans complaisance », toujours en vente au Centre Charlier, j'ai écrit un livre « Israël d'Abraham à nos jours ». Parce que je me suis aperçu que les meilleurs prêtres, beaucoup, je ne dis pas tous, parmi les meilleurs prêtres que je fréquente, ben, ils ne savaient à peu près rien de la religion juive. Ils croient que c'est la religion de l'Ancien Testament. Ils ignorent, mais je développerai cela une autre fois avec vous, que le judaïsme est postérieur au christianisme. Quand je dis cela, ils ouvrent des yeux absolument écarquillés. Or, la religion, le judaïsme, c'est une religion qui se forme à partir du 2e siècle après Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion religion de l'Ancien Testament. C'est un commentaire de la religion de l'Ancien Testament. C'est une vaste nuance. C'est une religion qui a, après la Torah, les textes du Talmud et de la Kabbale. Alors, je reviens à l'islam. L'islam, c'est exactement pareil. Et là, on trouve la même indigence. Je vais répondre à la question de Daniel Amand, mais je vais au bout de mon propos. La même indigence dans le monde politique en général. Et je ne peux pas ne pas relever, mais je ne citerai pas, pour ne pas faire de la polémique, je suis trop, comment dirais-je, je cherche toujours, comme vous le savez, l'unité maximum de notre camp. Mais enfin, quand un homme important, je ne vais pas aller plus loin, dit, mais face à l'islam, qu'est-ce que vous avez à en proposer, hein? Eh bien, c'est tragique. Parce que, effectivement, au fond, face au communisme, c'était un peu pareil. Les hommes politiques étaient complètement pris au dépourvu, comme d'ailleurs face au nazisme. Enfin, il a fallu que ce soit l'éditeur Sorlot, ami de Jean Madiran, qui publie Mein Kampf sur la demande de Lyoté, parce qu'il fallait connaître ce qu'était le nazisme. Alors, le communisme, c'est pareil, on ne l'a pas étudié, pour des raisons que Jean Madiran a développées, mais l'islam, idem. Alors, moi, par exemple, je vous réponds, oui, si j'étais candidat à la présidence de la République, je dirais ce que je ferais face à l'islam si j'étais président de la République. Aucune démagogie. Je ne dirais pas, il faut mettre les musulmans dehors, je ne tiendrai pas des propos extrémistes. Je dirais premièrement le respect des musulmans pour dans leur personne, dans leur dignité humaine, dans leur foi d'ailleurs, mais ensuite les exigences que je poserai aux musulmans, comme Napoléon avait su les poser aux juifs, ce que Nicolas Sarkozy n'a pas su faire. Quelles exigences? Je ne vais pas traiter sur le fond ce soir, j'y reviendrai parce qu'on trouvera cela dans le prochain numéro de Reconquête. Eh bien, on dirait aux musulmans de France, puisqu'il y a un conseil désormais. L'embêtant de ce conseil, c'est qu'on ne leur a rien demandé. Quand Napoléon a créé le Sanhédrin, ancêtre du Trif, il a demandé aux Juifs un certain nombre d'exigences. C'est notre ami François-Georges Dreyfus qui me le rappelait récemment. Bon, aux musulmans, on pourrait dire, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous acceptez le principe de l'égalité, donc de l'homme et de la femme? Est-ce que vous refusez la polygamie? Est-ce que vous acceptez la liberté religieuse? Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'une petite fille, comme j'en connais, que vous connaissez aussi, qui se convertit au catholicisme, il faudrait que l'islam, que le docteur Boubacar dise, elle ne risque plus rien. Or, et nous garantissons que la liberté de conversion, dont ça s'appelle la liberté religieuse. Alors, voyez-vous un certain nombre de questions. Je ne vais pas toutes les développer ce soir. Par exemple aussi, que les musulmans qui ont comme valeur supérieure l'Oumma, l'adhésion donc à la communauté des croyants, à partir de ce qu'ils invoquent, cette communauté supérieure des musulmans à travers le monde, sur la nation, on peut leur demander, exiger d'eux, qu'ils demandent donc à leurs co-religionnaires de partout et aux États musulmans de donner aux non-musulmans dans ces pays-là les droits que les musulmans ont dans nos pays. Ça s'appelle la réciprocité. Alors quand un homme politique dit « Moi, je vois pas ce qu'on peut faire face à l'islam », sinon, eh ben, je regrette, si, on peut formuler de telles exigences, et c'est pour ça que nous jouons puissamment notre rôle, et que le mouvement du pays libre qui se structure en ce moment, donc sera promoteur, sera inspirateur, initiateur, parce que on est et dans un dialogue avec les musulmans. Ouais, des musulmans m'écrivent, je leur réponds, je ne suis pas pour la conflagration, je suis pour la confrontation, pour le dialogue interreligieux, voilà, disons les choses par leur nom.
En septembre, vous aviez organisé un rassemblement place Saint-Michel suite au meurtre de cette sœur en Afrique et pour protester aussi contre l'oppression religieuse dans laquelle sont les chrétiens dans les pays où les musulmans sont majoritaires. Vous aviez listé un certain nombre de questions. Justement sur la liberté des chrétiens qui était adressée à Dalil Boubacar. Est-ce qu'il vous a répondu?
Non, le docteur Boubacar ne m'a pas répondu, ce qui prouve bien que d'un côté nous voulons le dialogue. J'ai fait savoir que j'étais prêt à rencontrer le docteur Boubacar, qui était un homme que je sais estimable, qui s'exprime très bien, qui est de culture française. Bon, parce que c'est comme avec les communistes, quoi. Bon, ça doit être à sens unique. Ben non, avec nous ça n'est pas à sens unique. Donc nous poserons à Boubaker comme à d'autres, hein, les questions qui s'imposent pour l'avenir de la paix, hein, parce qu'il s'agit bien de cela. Hein, si nous avons un islam qui n'accepte aucun dialogue, c'est un islam, par exemple, qui n'accepterait pas que l'on puisse commenter le Coran comme on le fait de la Bible, hein, qui n'accepterait pas que l'on puisse parler de la vie du prophète comme l'on en parle dans les textes musulmans. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, nous ne disons pas autre chose, nous, que ce qu'il y a dans la Sirah d'Al-Bukhari ou dans Ibn Hisham. Hein. Donc, il faut là mettre des règles du jeu, et c'est là que quelque violence que ce soit, j'ai trouvé que Nicolas Sarkozy ne faisait pas un bon travail en créant, dans ces conditions, ce Conseil français du culte musulman. Il aurait dû, pour le moins, la sortir des exigences napoléoniennes.
Une autre question en lien avec la précédente, est-ce que l'efficacité de ces deux systèmes, que s'il s'agisse du communisme ou de l'islam en tant que système politique et non pas seulement comme religion, n'est pas due aussi à la lâcheté d'un certain nombre d'autorités, qu'elles soient européennes, occidentales ou même plus simplement chrétiennes? Et j'en veux pour preuve ces effets de fascination qui fait que finalement on a le sentiment que les chrétiens eux-mêmes ou certains hommes qui se réclament du christianisme, je pense à gens comme François Bayrou aujourd'hui ou d'autres du MRP, tous ces gens du compagnonnage de route du communisme dans les années 50, ne croient plus en leurs propres valeurs, en ce qui constitue profondément le christianisme. Je me souviens effectivement de ce que disait dans son livre Trois tentations contre l'Église, Trois tentations dans l'Église, Alain Besançon, il disait le communisme c'est une forme de christianisme inversé, avec une Église qui est le parti, un dogme qui est la loi de l'orthodoxie du parti en dehors de laquelle toute personne est hérétique, donc les condamnations, les purges, avec un clergé qui sont les différents hiérarches, la nomenclatura, et donc beaucoup de chrétiens finalement ne se sont-ils pas retrouvés aussi facilement dans le communisme parce qu'ils y retrouvaient une figure déchristianisée du christianisme, et peut-être pour certains aujourd'hui, se retrouvent dans l'islam parce qu'ils y voient effectivement une sorte de système politico-religieux où là on croit enfin au vrai Dieu, un Dieu qui n'hésite pas à être dur ou miséricordieux, mais qui s'affiche sans complaisance. Je pense à des figures comme Roger Garaudy, qui a été successivement une sorte de pape de l'intelligentsia communiste, avec un grand compagnonnage de route chrétien, et puis d'un autre côté, qui a basculé avec beaucoup d'autres dans une sorte d'apologie de l'islam comme vraie et définitive religion.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Oui, mais dans tout cela, moi, me semble-t-il, le caractère dominant, c'est l'affaiblissement ou la déliquescence des pouvoirs. La délicatesse. Vous avez pas parlé de terme de lâcheté en commençant votre dernière intervention et en parlant des réactions en somme des chrétiens, du tout venant des chrétiens. Mais les sociétés sont faites pour être gouvernées et pour être défendues par un certain nombre d'institutions qui ont la charge du bien commun. Et aujourd'hui, nous voyons bien que l'État est tout à fait déliquescent, même dans des problèmes beaucoup moins graves.
Élémentaires.
Nous voyons, oui, élémentaires. Nous voyons aussi que cette espèce d'affaiblissement, pour ne pas employer un mot plus sévère, cet affaiblissement de l'Église catholique. Cet affaiblissement qui n'enlève rien à son pouvoir surnaturel, à la mission qu'elle a reçue de Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qui détiennent le pouvoir dans la cité et dans l'Église croient ne pas pouvoir ou ne veulent pas ou ne savent pas l'exercer. Et je crois que c'est le phénomène, disons, le plus important. Le plus important, une restauration de pouvoir responsable. Actuellement, à qui nous adressons nos justes remarques ou que nous essayons d'être justes? Nous les adressons à ceux qui nous écoutent, à des individus. Un, c'est très bien, il faut le faire. Il faut le faire parce que nous essayons d'éclairer le chemin et de maintenir et de transmettre ce que nous avons reçu, ce que nous avons appris en l'ayant reçu. Mais pour que cela arrive au niveau où le cours des choses sera infléchi, c'est ce moment où, par la reconstitution des autorités qui sont en déliquescence, en décomposition, je crois.
Vaste programme. Alors, pour un auditeur, juste qui me dit Napoléon a créé le consistoire et non pas le Sanhédrin. Non, il a d'abord réuni les Juifs eux-mêmes. J'ai vu dans appelé un Sanhédrin, c'est devenu le consistoire. La religion juive n'a pas été créée deux siècles après le Christ. Elle existait avant. Oui, bien sûr, j'ai pas dit ça. Elle existait avant. Mais j'ai dit, elle s'est formée après. Puisque la religion juive, bon, écoutez, j'ai suffisamment lu la religion juive et c'était le judaïsme. Alors, je dis à cet auditeur, non, il n'a pas beaucoup de culture juive. La religion juive que pratiquent les juifs, c'est une religion dont est celle de la Torah, mais qui est celle du Talmud, qui est créé définitivement en Talmud de Babylone au 5e siècle, et ensuite dont il y a la Kabbale qui va se développer, et la religion juive, il suffit d'aller de prendre, que sais-je, les livres de Chouraki pour savoir cela, cher auditeur. Oui, David.
Oui, je voulais juste vous demander, Bernard, puisqu'on regrettait justement qu'il y ait un affaissement de l'affirmation chrétienne, ce que vous pensez du sondage paru dans la dernière édition du Monde des Religions qui concerne les catholiques de France. Ces chiffres sont assez inquiétants, non ?
Ouf, alors là, si on se lance dans l'analyse de cette chose-là, il nous reste quelques minutes seulement, et j'aurais aimé vous donner un peu la parole, vous aussi, mais je propose que l'on mette ça tranquillement à l'ordre du jour la prochaine fois.
D'accord.
Parce que, soit on le fait sérieusement, bien sûr, on peut être triste de ce que des catholiques déclarent ne pas croire en Dieu, mais il faut entendre par là qu'ils sont des catholiques sociologiques. Ils ont donc une conscience identitaire, finalement, c'est peut-être pas tellement mauvais non plus, s'il leur reste encore un peu quelque chose, s'il leur reste l'amour du clocher, même François Mitterrand utilisait cela, hein, avec le clocher derrière son affiche de la force tranquille. C'est ça le catholique qui ne croit pas en Dieu, finalement.
Bon, c'est quand même pas la définition première d'un catholique.
Mais non.
D'aimer son clocher.
Mais non.
Mais
bien sûr. Mais j'essaie. On peut toujours commenter avec beaucoup de tristesse ou en essayant, bon, de voir ce qui peut subsister encore. Donc ce commentaire fait apparaître des catholiques sociologiques et puis il y a des catholiques fervents. Mais ils sont une minorité et ils sont une minorité de plus en plus minorée. Pourquoi ? Quoique les choses peuvent changer, je n'ai pas un regard sur le sujet entièrement pessimiste. Mais parce que nous sommes dans le délabrement que Germain Durand a analysé.
Oui, avec cette nuance aussi que le pouvoir, ce pouvoir en décomposition, il y a un point sur lequel il conduit très fermement son dessein, il y a un point sur lequel le bilan du président Chirac est très positif et qui avance sans cesse. Cela, c'est la laïcité, cela, c'est le métissage universel, cela c'est la promotion de l'homosexualité, cela c'est la condamnation, le système de condamnation de toute opposition sur ces thèmes-là, à tout assimilé au racisme, la création d'une institution comme la HAD qui est chargée de l'inquisition à ce sujet. On peut dire que là, véritablement, il y a une volonté qui est suivie et que les choses avancent.
Voilà. Alors, on est sur le racisme, vous avez fait une bonne transition, Germain Durand, pour la question que je voudrais poser à David Fonté, qui est un militant de la justice et qui éprouve une grande indignation à propos d'un événement qui s'est passé dans le quartier.
Oui, non, mais tout à fait, on est à côté du Parc des Princes, et bon, l'affaire que je voudrais aborder une nouvelle fois sur cette antenne, l'affaire Kemener, qui est une énième preuve de la dérive scandaleuse et très inquiétante qui est à l'œuvre donc dans notre pays. Vous vous souvenez de ce jeune qui donc est mort à l'issue donc du match PSG à Poète Tel Aviv. C'était le 23 novembre 2006. Ce match était un match à haut risque. On sait qu'il y a beaucoup de hooligans au PSG, mais on sait moins qu'il y a aussi que l'équipe de Tel Aviv est connue pour ses hooligans qui pratiquent des ratonnades dans les rues des villes d'Israël. Hein, les Arabes israéliens en font souvent les frais. Donc, bon, on nous a servi pendant les trois jours qui ont suivi l'événement un scénario assez hollywoodien. D'ailleurs, on nous a dit qu'un policier antillais, d'ailleurs, que vient faire ce qualificatif ? On ne dit pas qu'un policier qui vous arrête est breton ou bourguignon. Mais là, on nous a dit tout de suite il était antillais. Et ce policier a sauvé donc la vie à un supporter de Tel Aviv poursuivi, qui serait poursuivi par une horde de hooligans néo-nazis assoiffés de violence. Alors bon, le policier, en légitime défense, aurait fait usage de son arme, et la balle a donc d'abord traversé un premier supporter, avant de toucher en plein cœur un second supporter qui est mort, Julien Kemner, 25 ans, dont on n'a absolument pas parlé pendant 3 jours. Hein, et qu'on a connu le dimanche suivant. C'est le journal du dimanche qui a donné pour la première fois un visage, au sens propre comme au figuré, à ce jeune. Voilà, je voulais juste dire que les deux effets immédiats de cette bavure, c'est que l'antiracisme médiatique tenait une belle histoire qu'il a essayé d'exploiter de manière intensive. C'est d'ailleurs ce qui nous, blogueurs, qui produisons de l'information alternative, c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Et puis, simultanément, il y a eu une manœuvre politique qui a commencé à être esquissée. Il y a eu ce que je vais appeler un effet Carpentras. On a tenté donc d'instrumentaliser cette affaire pour nuire à un parti, le Front National, qui au même moment était assuré de 17% selon le sondage du CSA, 17% d'intention de vote à ce moment-là. Bon, c'est le procureur.
C'est un magistrat en fonction qui a pris
oui,
la tête.
C'est le procureur. C'est le procureur.
C'est le procureur. Ça prouve à quel point la magistrature, parce que c'est un fait qui se reproduit souvent, est véritablement en grande partie pourrie par le marxisme.
Alors troisième effet inquiétant, c'est les réflexes pavloviens de la classe politique. Aucune compassion, alors que d'habitude il y a une compassion qui s'installe. Hein. Le président de la République va voir les gens sur leur lit d'hôpital. Ici, aucun mot pour la famille de ce jeune. On n'aura pas droit à toute la mécanique compassionnelle et victimaire qui se met en route à chaque fois qu'un jeune est abattu par les forces de police. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette affaire, parce que les auditeurs la connaissent bien. Moi, je voudrais dire qu'il y a dans ce pays, depuis un an, un parti pris politico-médiatique.
Non, mais il faut peut-être dire, David, tout de même, rappeler pour quelques autres auditeurs, que depuis, on sait que les faits n'ont pas été ceux qui ont été présentés.
Effectivement, les faits ne sont pas ceux qui ont été présentés. D'abord, en matière de hooligan, il faut savoir qu'en guise de skinhead raciste, c'est un jeune homme, le premier qui a été touché s'appelle Mounir, et que c'est un jeune d'origine maghrébine, que le second, Julien Kemner, n'était absolument pas un skinhead, il s'était rasé pour des questions de calvitie, il voulait absolument pas retourner dans les tribunes, et qu'il avait dégoûté parce qu'il y avait vu une trop grande violence, il projetait de se marier, c'était un garçon de banlieue, parfaitement inséré, qui ne pouvait pas être suspecté de racisme, selon les témoignages de gens qui le connaissent depuis très très longtemps. Sa future épouse était japonaise. Il allait entrer en catéchuménat. Toutes des personnes qui le connaissent témoignent de ce que ce garçon était un garçon équilibré et n'avait rien à voir avec les.
Et je précise que je demande à la DRIF, demain je demanderai à la DRIF, comme une mission que vous mènerez, d'enquêter, d'en savoir davantage pour honorer sa mémoire et le défendre éventuellement, parce qu'on peut. Là, il y a quelque chose qui est parfaitement inadmissible. Il y a eu une inversion antiraciste, c'est-à-dire raciste.
Total. Et d'ailleurs, c'est dramatique parce que moi, je me mets à la place de ses parents qui, pendant trois jours, ont vu dans tous les journaux télévisés et dans la presse écrite leur fils dépeint comme un néo-nazi sanguinaire. Il venait de le perdre. À aucun moment, il a fallu attendre trois jours pour connaître et l'identité de ce jeune, et son âge, et quelques faits.
Il
faut dire, et d'ailleurs, au même moment, alors qu'on apprend le jour où ce jeune maghrébin tombe dans le canal, vous vous souvenez de ce jeune maghrébin qui tombe dans le canal, on a appris, alors que c'était un banal fait divers, je m'excuse de le dire ainsi, mais on a appris le jour de son rapatriement au pays, alors qu'on n'a jamais su à quel moment ni à quel endroit avaient lieu les obsèques de Julien Kemner. Donc il y a quand même un problème. Ce que je vais dire, c'est que, par contre, ce qu'on a su, c'est que le seul policier qu'on dépeignait comme un héros, était suspendu ce jour-là. Il n'était absolument pas en fonction. Il va être jugé au mois de juin correctionnel pour dénonciation de faits imaginaires. Il faut savoir qu'avant d'entrer dans la police, il s'amusait à racketter des dealers qu'il a reconnus sous l'uniforme, et il n'a rien trouvé de mieux pour rembourser ses anciennes victimes que de détourner des fonds de tirer sur la carte bleue de son beau-père qui le poursuit actuellement dans la justice. Il a inventé une histoire abracadabrantesque, comme dit le président de la République, et finalement c'est lui qui va se retrouver devant les tribunaux. Deuxième élément troublant, c'est ce qu'a dévoilé Mondévi. Il a dit avoir été renversé, frappé, battu, et c'est qu'en connaissance de, enfin, c'est vraiment en dernier recours qu'il a sorti son pistolet et qu'il a tiré. Or, le rapport médical ne mentionne aucune lésion, et le tir, les expertises balistiques disent qu'il n'était pas du tout à terre quand il a été tiré, donc finalement.
Mais debout.
Donc, la réponse, la légitime défense ne pourrait pas être retenue, puisqu'il faut qu'il y ait une réponse adaptée à la menace. Hein, c'est ça voilà. Je terminerai en disant qu'en France, depuis un an, il y a un parti pris politico-médiatique qui se traduit par une préférence ethnique inacceptable concernant les victimes mortelles de violence. Lorsque vous êtes un jeune d'origine subsaharienne ou maghrébine et que vous décédez à la suite d'une bavure, vous devenez automatiquement une victime et vous avez droit à la formule compassionnelle intégrale de la part des médias et des pouvoirs publics. Il en va autrement lorsque vous êtes un Gaulois, un Céfran, comme ils disent, ou un Breton, comme Jean-Claude Hirvoas, qui est mort pour avoir photographié un réverbère pendant les émeutes l'année dernière, comme Jean-Jacques Le Chénadec, qui a essayé d'éteindre un feu de poubelle et qui est mort à Stain, battu à mort aussi par des jeunes qui brûlaient des voitures à ce moment-là, ou donc comme Julien Kemener. Voilà. Nous aurons également ce soir une pensée pour le petit Karl, hein, voilà, parce que si la gauche paillette nous ressort 20 ans après Malik Oussekine, il faut dire quand même que le petit Karl, lui, en 3 jours, son affaire a été classée. Voilà. Bernard, ce que j'avais à dire rapidement, je le regrette parce que j'avais un certain nombre de détails à préciser, mais on reviendra sur ces affaires parce que c'est pas terminé.
Alors, je voudrais que l'on donne toute l'importance que nécessite cette affaire. Dans le prochain numéro de Reconquête, vous voudrez bien donc la développer. Il nous reste très peu de temps maintenant. Je garde aussi les questions qui n'ont pas été traitées ce soir parce que c'était un entretien très riche autour de Jamaa Diran, et je propose d'en garder quelques-unes que nous pourrons commenter dans notre prochaine émission, n'est-ce pas Daniel Amand, qui ce soir aurait peut-être aimé, mais il nous reste quelques minutes à peine, non même pas.
Juste le mot d'Alain Finkielkraut, je crois qu'on peut répéter avec force que l'antiracisme sera au XXIe siècle ce que le communisme a été au XXe.
D'autant qu'il a été animé, pratiquement inventé, animé, et toujours animé, selon les méthodes communistes, et par des communistes le plus souvent.
Tout à fait.
Je voudrais
avec tous les idiots utiles, naturellement.
Je voudrais rappeler qu'il y a une prochaine conférence au Centre Charlier, là aussi pour faire justice en faveur de l'armée française, conférence du colonel Jacques Hogar, Ma vérité sur le Rwanda, l'armée française 60 jours dans la tourmente. J'ai dit dernièrement ici même comment je trouvais admirable le travail de nos soldats français au Liban. Eh bien, les soldats français sont diffamés sur la question du Rwanda. Le colonel Jacques Hogar, donc, est un colonel de grande notoriété dans l'armée, officier de la Légion étrangère. Il sera donc au Centre Charlier le jeudi 18 janvier à 19h30. Jeudi 18 janvier à 19h30. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci de cette écoute. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Nous nous efforcerons de leur répondre. Bonne soirée à tous et que Dieu vous garde.
C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com.
Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 11 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.